Alors, donc, ce soir, il faut que soyez attentifs parce que le sujet est difficile. Et puis, indulgent parce que je suis un peu, comme vous, en fin d'année, un peu. J'ai quelques petits problèmes de fatigue et quelques petits problèmes médicaux sans gravité, mais qui sont un peu. Qui pompent de l'énergie. Donc, et puis aussi, il y a indulgent pour ceux qui viennent en cours de route, donc qui prennent le train en route, donc, parce que ce que nous faisons suppose quand même une certaine continuité. Cette année, on parle des dons du Saint-Esprit. On a eu donc trois conférences sur les dons correspondant à ce que les pères de l'Église appellent la fuite du péché. Donc on a parlé du don de crainte, on a parlé du don de piété filiale, et on a parlé du don de science qui correspondent à trois aspects de la vie chrétienne en tant qu'elle nous fait éviter le péché. Je vous rappelle donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi les conférences antécédentes sur la nature des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont des dispositions habituelles qui sont dans l'âme de tous les chrétiens qui sont en état de grâce. Et toute personne qui a la charité possède en lui des aptitudes à recevoir des impulsions directes du Saint-Esprit. Alors, c'est un aspect de la doctrine théologique qui est très enrichissant, qui est malheureusement assez peu enseigné, parce qu'il nous montre que dans la vie chrétienne, il y a un aspect ascétique, il y a un certain nombre de choses à faire qu'on nous recommande dans la pénitence, dans les actions, et puis pour pratiquer les vertus comme la justice, il y a toujours des difficultés, donc il y a ce qu'on appelle une ascèse, qui vient d'un mot grec qui veut dire le combat. Alors cet aspect-là est assez habituellement, relativement quand même enseigné, au moins par les prédicateurs qui ont la foi. Il y en a encore quelques-uns. Mais peut-être qu'ils oublient un petit peu, ou on oublie parfois de... Vous avez de la place là, et puis là aussi, il y a plein de places sur la route. On oublie de rappeler que la vie chrétienne est indissolublement ascétique et mystique, c'est-à-dire que on n'est pas les seuls artisans. Non seulement on a en nous les trésors de la grâce reçus au baptême, avec sortant de là toutes les vertus surnaturelles, spécialement les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, et puis d'autres vertus qui nous permettent de vivre dans la société civile, la force et la justice, et puis de nous diriger par rapport à nous-mêmes, la tempérance et la prudence, et par rapport aux autres aussi. Donc on a tout cet organisme très développé, mais en fait il se trouve qu'à cause de la complexité de la vie, à cause de l'élévation du but de notre existence qui est surnaturelle, qui n'est pas quelque chose qui est simple au niveau de la technique ou de la raison humaine, on a besoin d'être pris en main, directement par le Saint-Esprit, et ça pas simplement d'une façon, si vous voulez, miraculeuse. Vous voyez, je crois que la grande différence entre les dons du Saint-Esprit et ce qu'on appelle les charismes ont été remis un peu à la mode par certains groupes qu'on appelle dans l'Église des charismatiques. Donc ils insistent sur la possibilité pour certains de recevoir certains dons particuliers comme la prophétie, le discernement des esprits, le fait de parler dans les langues, etc. Alors tout ça, ça existe en effet. Comment il faut discerner si ça vient de Dieu ou bien si c'est des illusions ou si ça vient du démon. Il y a encore de la place là. Alors. Mais c'est pas une bonne chaise celle-là. Celle-là est bonne. Et donc, une fois qu'on a fait ce discernement-là, c'est vrai qu'il y a des charismes, mais ces charismes sont donnés pour le bien de l'Église à certaines personnes. Tout le monde n'est pas prophète, grâce à Dieu. Tout le monde n'a pas le don de lire dans les cœurs. Tout le monde ne peut pas parler plusieurs langues sans l'avoir appris. Mais il y a des gens qui, parfois, reçoivent ce don-là pour permettre à l'Évangile de diffuser. Il faut bien se rendre compte que le but essentiel des charismes, c'est le bien commun de l'Église. Alors peut-être qu'un jour, on en parlera plus en détail. En particulier, le fait de faire des miracles, c'est un élément charismatique, les apôtres en ont fait pour prouver la vérité de leur mission. Mais ils sont au service d'autre chose. En quelque sorte, je dirais que ce n'est pas très important. Enfin, c'est sympa, ça met de l'ambiance, si vous voulez, parce que quand quelqu'un fait un miracle, ça change un peu le paysage. Hein, et puis ça donne un peu du dynamisme. Là. C'est vrai qu'il y en a. Bon, il y a aussi des gens qui ont des révélations. Il faut aussi vérifier la source de ces révélations, mais ça arrive que la Sainte Vierge parle à des voyants, comme elle a fait à Fatima ou à Lourdes. Bon. Mais seulement c'est fait, ça c'est pas pour le bien des voyants, c'est pas pour le bien des gens qui reçoivent le charisme, c'est pour le bien de l'Église. Et c'est quelque chose d'absolument gratuit, qui est complètement transitoire. Vous voyez, Dieu prend quelqu'un et lui révèle des choses. Voyez, il a appelé Jeanne d'Arc, il lui a dit voilà, elle avait 13 ans, elle était bergère, ben, tu vas aller rétablir le droit de France légitime sur son trône. Enfin, tu vas lui donner son royaume, ce qui était quand même un petit peu étonnant pour une fille de 13 ans. Quoi. Enfin, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est quand même un peu miraculeux. Mais c'est pas pour elle l'intérêt, c'est même plutôt le contraire, parce qu'elle a fini mal, elle a fini brûlée sur un bûcher. Mais c'est pour le bien de la foi et de quelque chose que Dieu voulait faire. Donc vous voyez, les charismes, c'est pour le bien de l'Église. Tandis que, et c'est quelque chose de transitoire. C'est-à-dire que, évidemment, ça arrive que des saints jouissent d'un charisme à longue durée, mais c'est quelque chose qui est parfaitement aléatoire. Le Padre Pio, par exemple, le grand confesseur italien, chez qui tous les Italiens y vont, parce qu'il y a 6 millions de personnes qui vont chaque année à San Giovanni Rotondo, sur le lieu où a vécu le Padre Pio, eh bien, il disait dans les chœurs, dans la confession, pour aider les gens à se confesser. Ce n'était pas pour se faire plaisir à lui, pour montrer qu'est-ce que je suis balèze, ouais, tout ce que vous avez dans votre cœur, je le sais déjà. Ce n'est pas pour son avantage à lui, mais c'est pour aider les gens à accoucher de leurs péchés, comme le curé d'Ars, bon, voilà. Mais voyez, ça, c'est des choses tout à fait extraordinaires, et qui ne sont pas dans la voie ordinaire de la sainteté. Vous voyez, parfois, les gens disent, ben, moi, je connais, il y a des prêtres qui vous disent, je connais une âme mystique, qui a des visions et tout. Mais c'est un mauvais vocabulaire. Tous les chrétiens qui ont la grâce et la charité sont des âmes mystiques. Et puis, il y a des saints qui ont des phénomènes préternaturels ou surnaturels, qui sont des charismes exceptionnels pour le bien de l'Église. Et alors, les dons du Saint-Esprit dont on parle, c'est des choses que possèdent tous les chrétiens en état de grâce. Donc, si vous avez la charité, vous avez les dispositions habituelles, donc de façon stable en vous, à recevoir des impulsions directes de Dieu, du Saint-Esprit, si vous voulez, parce qu'on l'attribue au Saint-Esprit qui est l'amour, qui va vous permettre de faire les actes des vertus chrétiennes, de mener votre vie chrétienne avec plus de suavité, plus de connaturalité. Connaturalité, ça veut dire, si vous voulez, comme... Oui, quand vous êtes entraîné dans une technique, si vous avez fait des gammes au piano, si vous êtes bon dans un sport, ben on le voit actuellement à Roland-Garros ou ailleurs, je ne sais pas si ça a déjà commencé, mais je sais pas, au patin à glace, on voit les gens, quand vous les voyez faire ça, c'est beau, parce qu'ils ont vraiment, ils ont ce qu'on appelle l'habitus, des choses, ils se sont entraînés, et pour eux, c'est pas, ils le font avec facilité et plaisir, délectation. Et c'est donc une chose qu'ils ont de façon stable. Quand on a appris une fois à nager, ben, il paraît qu'on ne l'oublie jamais, enfin on nage suavement, du moins s'il n'y a pas trop de vagues. Voilà, c'est quelque chose qui reste stable. Ben, le chrétien, il a de façon stable, s'il a la grâce, il a les dons du Saint-Esprit. Alors, il y en a trois qui sont surtout orientés à lutter contre le péché, hein, le don de crainte pour nous rappeler les fins dernières, le ciel, l'enfer, et comment prendre une certaine distance vis-à-vis du monde, le don de piété pour considérer tous les hommes comme nos frères ou les fils de Dieu, qui sont appelés à aussi eux à la filiation divine dans le Christ, et puis le don de science, qui est déjà un peu plus contemplatif, qui fait qu'on voit les créatures pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire à la fois des occasions de péché, donc c'est pour ça que le don de science, on attache la béatitude des pleurs, un bienheureux ceux qui pleurent, parce que pour saint Augustin, pour saint Thomas, chacun des dons dont je vous parle est associé à une béatitude, des béatitudes que Christ a données dans le sermon sur la montagne, bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux, bienheureux ceux qui sont doux, ils posséderont la terre, bienheureux ceux qui pleurent, ils sont consolés. Voilà les béatitudes de la fuite du péché. Donc on avait parlé de ces trois-là dans les premiers cafés-catés. Et ensuite on avait, et je crois on a essayé de montrer à ce moment-là, que ça apporte quelque chose, vous voyez. Parce que c'est vrai que si on est tout seul pour mener la vie chrétienne, surtout dans un monde qui n'est pas chrétien, qui est post-chrétien ou qui est anti-chrétien, dans un entourage qui n'est pas porteur, c'est vrai qu'on se sent un petit peu isolé. Donc il faut souvent penser, donc on a le Saint-Esprit si on a la grâce en nous, on a le Saint-Esprit qui habite dans notre âme et qui nous donne justement des inspirations spéciales que nous recevons par les dons du Saint-Esprit. Et donc si vous voulez, on est à demeure et on est toujours à l'aise entre guillemets, si vous voulez, enfin plus ou moins à l'aise, hein, mais dans la vie chrétienne, l'extraordinaire est un peu ordinaire parce que les dons du Saint-Esprit, je ne sais pas si je vous avais donné cette comparaison. Pour essayer de faire comprendre ce que c'est l'équivalent du génie par rapport à la vie artistique ou intellectuelle. C'est-à-dire que dans la vie artistique ou intellectuelle, vous avez des gens, on apprend une science, on apprend un art. Bon. Et puis là-dedans, il y a des gens qui sont plus ou moins doués. Et certains sont carrément géniaux. C'est-à-dire qu'ils trouvent le truc, ils disent, tiens, si qu'on dirait que dans l'équipe de recherche, et hop, on se met à chercher par là, et comme par hasard, on trouve et on coince notre équipe de recherche, donc on est tout content. Mais si le gars n'avait pas dit, si qu'on dirait que, on va essayer de faire telle expérience que personne n'a jamais essayé de faire, et bien, pourquoi il a dit ça, le gars? Ben, j'ai beaucoup réfléchi à la question. Il n'y a pas de raison rationnelle, justement, parce que le génie est supra-rationnel. Il est intelligible, mais il est au-delà de la raison. Donc après, les vérifications rationnelles permettent de voir si c'est gouré ou pas. E égale MC2, il fallait le trouver, hein, Einstein a trouvé ça. Et après, on a pu vérifier que ça marchait, quoi, par des expériences. Et en définitive, la raison a toujours son rôle à jouer, parce que c'est la raison qui va par des expériences et des mesures et des calculs, vérifier si l'intuition était fondée. Mais on voit bien qu'il y a des gens qui sont très bons calculateurs, il y a des gens qui sont des intuitifs, c'est-à-dire qui peuvent, une fois qu'il y a une théorie exposée, je prends là pour le domaine de la science, mais c'est pareil pour l'art. Il y a des gens qui trouvent des trucs, il y a des gens qui font des œuvres, il y a des gens qui les expliquent, ou qui sont sensibles à ces œuvres, et ce n'est pas forcément les mêmes. Tout le monde sait qu'il y a des bons profs, et qui ne sont pas forcément des bons chercheurs. Il y a des chercheurs qui sont géniaux en recherche et qui sont nuls en pédagogie. Bah, tout le monde sait ça. Du moins, si vous avez subi un prof comme ça, en maths par exemple, en maths sup, j'en ai eu un comme ça, il avait trouvé les matrices. Enfin, il s'était fait squeezer par un type qui a trouvé les matrices avant lui. Enfin, il a trouvé des tas de trucs extraordinaires, mais comme prof, c'était... Enfin, j'ai beaucoup souffert. Mais c'est pour vous dire que c'est pas la même chose, l'intuition, vous voyez, et la raison. Mais la raison permet de vérifier si l'intuition porte sur du réel en définitive ou pas. Mais on voit qu'elle est d'un autre ordre. Le génie, il est au contact directement avec la réalité, parce que lui-même, si vous voulez, il est modifié par la réalité de façon plus puissante que les autres. Vous voyez, je crois que le poète, par exemple, le poète est un génie dans l'ordre de l'expression. Le poète est celui qui trouve des mots qui vont faire que dans une phrase, dans un sonnet, dans un quatrain ou même dans des vers libres, vous allez avoir un certain balancement et puis rien qu'en écoutant ça, si vous avez le sens un peu poétique, vous allez être tout bizarre, ça vous fait pouic et vous allez être tout... Par exemple, ça pue. Mais vous allez être tout drôle et vous allez sentir, si vous allez voir, là, je sais pas, si vous lisez un beau poème de pièce de Racine ou un poème de Baudelaire ou de Rimbaud, enfin qui est un peu échevelé, mais enfin qui était quand même un grand génie, ou même Valérie, ou Cimetière Marin. Bon, quand vous lisez Cimetière Marin en face du paysage où il a écrit, vous dites, ce gars-là est un génie, parce que en lisant le poème, vous dites, bah, il a raison, mais moi j'aurais déjà incapable de dire ça. Enfin, moi personnellement, vous peut-être aussi, je ne sais pas. Mais voyez, mais pourquoi il a vécu? Il a dit ça parce qu'en fait, bon, il a une capacité de communication, ça c'est vrai. Mais dans le génie, il n'y a pas que ça. Je crois que le génie, c'est celui qui est tellement avec ça, la réalité, qu'il est un peu identifié à la réalité, vous voyez. Le chercheur qui est vraiment dans sa sphère, qui s'est vraiment assimilé tout l'effort des chercheurs antécédents, au moins par les bouquins, par l'ambiance de la tradition qu'il a reçue, en philo c'est pareil, il est là-dedans, c'est son domaine, il vit qu'avec ça, si vous voulez. Voilà. Et donc, quand les choses se présentent, lui, il est ami avec les choses, il y a une connaturalité d'amitié. Et donc, ben, il trouve comment les choses sont parce qu'il les aime, vous voyez. Et ben voilà, les dons du Saint-Esprit, c'est ça pour tout le monde. C'est l'avantage de nous, les chrétiens, si on a l'amour de Dieu, on est tous géniaux. Enfin, dans un certain domaine, quoi. Mais c'est-à-dire qu'on a un truc que dans le domaine naturel, on crée génie. Hein, c'est l'exemple que prend Aristote, que prend Saint Thomas, en s'appuyant sur Aristote, pour dire qu'est-ce que c'est les dons du Saint-Esprit. C'est des inspirations, voilà. C'est des inspirations que nous donne celui qui a fait le monde, celui qui a fait les gens, qui a fait l'esprit des gens, pour savoir, à certains moments, pour avoir la force de faire certaines choses, pour avoir la lumière, pour voir plus en profondeur certains articles de la foi, pour avoir la prudence, qu'on a vu ça l'avant-dernier Café Caté, là, au dernier, le don de conseil, c'est donc la prudence dans les dons de l'action, pour choisir au fond la bonne solution, pour avoir beaucoup réfléchir, mais finalement le choix, on s'aperçoit qu'il nous est donné, vous voyez. Donc, naturellement, dans le bon sens, il y a quelque chose comme ça. Quand on a trouvé une solution de bon sens, on se dit, mais c'est marrant, j'y ai pas pensé avant. C'est ça la bonne solution. C'est celle que quand on a trouvé, on dit tiens, mais c'est drôle, j'aurais dû trouver ça il y a 3 jours. Et en fait, c'est quelque chose de tellement essentiel et tellement basique qu'on était trop près, si vous voulez, pour le voir. C'est comme la métaphysique. C'est difficile parce qu'on parle de l'être, et l'être, il y en a partout, tout est de l'être. Donc quand vous dites aux gens, je fais un doctorat sur l'être, les gens se marrent, quoi. Parce que lui, il est fou, ce mec. C'est un doctorat sur l'être, mec. Ça veut dire quoi? Ça se mange pas au petit déjeuner, en tout cas. Mais si, parce que la tartine, c'est aussi de l'être. Hein. C'est de l'être sensible, d'accord, et délectable, mais c'est de l'être aussi. Mais l'être, si vous voulez, c'est tellement répandu partout qu'il n'y a que les gamins, les poètes et les métaphysiciens qui s'en occupent. C'est pour ça qu'ils sont très tristes. Hein. Parce qu'ils voient que les gens ne s'occupent pas de l'être. Ils s'occupent de courir, ils s'occupent de l'heure de leur rendez-vous, ils s'occupent de ne pas rater leur TGV, du lait qui est en train de bouillir sur le truc, du logiciel qui a planté, du patron qui est de mauvais poil. Enfin, tout un tas de trucs qui sont de l'être aussi, mais comme de l'être déjà modalisé par des modalités souvent qui sont pas ouf, quoi, comme on dirait. Hein. Donc, alors, le métaphysicien, lui, il s'occupe de l'être en tant qu'être. Hein. C'est-à-dire qu'il dit, il y a des choses qui existent, tiens, ça c'est marrant, et si qu'on dirait qu'il y a des choses qui n'existeraient pas. Alors là, du coup, ça le fait réfléchir, vous voyez. Il est comme les gamins, quoi, comme les adolescents, quoi, et comme les poètes. Et il en faut aussi, hein, voilà, l'artiste, c'est comme ça. Et donc, si vous voulez, nous, avec les dons du Saint-Esprit, on a un peu ça, c'est-à-dire que le Saint-Esprit dans notre âme par la grâce, et donc il nous aide d'une part à mener la vie purgative, c'est-à-dire la vie de la fuite du péché, avec, si vous voulez, un certain enthousiasme, enfin, vous voyez, à faire le carême comme il faut, enfin, sérieusement, quoi, avec de l'élan, quand on fait le carême, quand on se mortifie un peu, ben, on sauve des âmes. C'est marrant, quoi. Plutôt que d'aller en enfer, c'est mieux, quand même, non? Les gens n'aillent pas en enfer parce que vous faites des pénitences, et ils vont se convertir. C'est super sympa. Donc, les dons du Saint-Esprit nous font, si vous voulez, faire un peu de souffle là-dedans. Hein, que la pénitence soit quelque chose qui vient de Dieu, vous voyez. La pénitence aussi vient de Dieu. Je sais bien qu'aujourd'hui, les gens n'approchent pas beaucoup. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas très malin. Parce que la vie elle-même est une pénitence. Hein. Ceux qui sont les plus vieux parmi vous me comprennent. Enfin, vous comprendrez assez vite, quoi. Il y a en tout cas une partie des choses dans la vie qui sont pénitentielles. Donc le chrétien, lui, il renverse ça pour en faire du bien. C'est qu'il le prend dans l'amour du Christ pour sauver les âmes avec le Christ. Et ça, c'est là, voilà. Donc le Saint-Esprit nous aide à faire ça. Et c'est pas banal, hein. Alors, il y a des places là-bas. Ce soir, c'est la... Il y a des places là. Et puis vous avez un texte, qu'est-ce qu'il y a des textes? Voilà, donc dans les dons de la fuite du péché, il y a toutes sortes de choses qui nous, voyez, qui font que on fait évidemment la pénitence du carême, ce qu'il faut exercer, on se prend certaines précautions par rapport aux occasions de péché. Aujourd'hui, c'est très important. Hein. Je reparle un peu ce qu'on a déjà dit dans l'année, mais c'est vraiment très important. Enfin, chaque fois que je viens à Paris, j'y pense, donc ça me revient un peu à l'esprit. C'est sûr qu'il y a tellement d'occasions de mal, si vous voulez, qu'il faut d'abord être contemplatif, enfin, on va en parler là tout de suite, c'est vraiment, je crois, la grande clé, et puis pas se mettre trop dans les occasions libres, et même pas du tout, quoi. Il y a des occasions obligées, mais les occasions libres où on sait qu'on va tomber, il ne faut pas s'y mettre, c'est clair. Réfléchissez à ça, c'est un peu du bon sens, quoi. Hein, les pistes à haut risque, il y a des gros malins qui font ça en hiver, ça fait des morts parmi eux, et puis aussi parmi les sauveteurs. Mais nous, il ne faut pas tout mettre sur les pistes à haut risque, sauf si on est pour une obligé d'y aller pour sauver quelqu'un, quoi. Donc il faut être intelligent là aussi. Donc voilà, les béatitudes de don de crainte, le don de piété et le don de science nous aident, si vous voulez, à nous orienter là-dedans avec une certaine énergie. Et ça fait pas... Je suis frappé de voir, vous voyez, les communautés religieuses qui sont sérieuses, vous avez une observance avec des pénitences, c'est souvent des communautés très gaies. Ça surprend beaucoup les gens la première fois qu'ils vont dans... Moi, la première fois que j'étais dans une récréation de moines, j'étais très, très scandalisé parce que ils faisaient plein de blagues, enfin ils étaient très marrants, quoi, des vrais gamins. Et ils sont très joyeux, quoi. Ils n'ont pas de choses lourdes dans leur vie, quoi. Ou alors ils ont celles des autres, quoi. Ou ils en ont, si vous voulez, mais on les a choisis, quoi. Donc on se fait des niches, quoi. La première fois que j'ai assisté à une récréation monastique, il y avait un moine qui avait fait un nœud, et dans le scapulaire, on avait. Alors des deux moines, quand ils ont voulu se séparer à la fin de la récréation, enfin, c'est un âge mental un peu bas, mais c'est marrant, quoi. C'est marrant parce qu'on se dit, les moines, ils sont comme ça, ils sont en plâtre, ils bougent pas, ils font des glorias patries. Et en fait, on fait plein de blagues. Dès qu'il y a un truc marrant à la lecture, tous les moines pouffent. Donc, ça, c'est bon signe. Hein. Quand ils rigolent, c'est qu'ils savent. S'ils rigolent plus, il y a un problème. Mais vous voyez, c'est lié. Vous voyez, Saint-Dominique était très pénitent. Hein. Saint-Dominique, c'était effrayant, c'était pénitent. Mais il était toujours joyeux. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a fait les pénitences, ben, on sauve des âmes. Quoi. Donc ça, c'est sympa. Et donc, il voyait le positif, la grâce de Dieu qui va sauver les pécheurs. Hein. Mais je crois que ça doit attirer. Je ne sais pas combien de fois, moi, je vois ce matin, je suis venu depuis ce matin. Je sais pas combien de gens m'ont abordé pour 36 trucs. Il y en a un camion qui s'arrête, c'est pour dire, on fait, bravo, hein, bah, ah, je suis content, moi j'ai la foi, moi je suis croyant, je sais pas, je suis né dans les Yvelines, le Christ, je crois vachement en Christ, alors il me sort son petit Christ. Dis-tu le prix? Ah bah non, il y a trop de boulot, j'ai pas le temps. Bah, plus loin, il y avait déjà un embouteillage, je bois les fils parce qu'il y a l'embouteillage. Il avait un petit accent, je me demandais s'il venait pas un peu du Maghreb ou je sais pas où. En fait, il venait des Yvelines, le gars. Mais ça lui a fait plaisir de voir un mec en habit. Bon, l'autre, le berbère qui balayait le trottoir là à côté. On a discuté, j'ai discuté avec un berbère balayeur de Paris sur Saint-Augustin, quoi. Il dit, ben nous, on a Saint-Augustin, il est berbère, tout ça. Maintenant, une discussion sympathique avec lui. Bon, mais je crois que les gens, c'est pas parce que, je sais pas, bon, parce que, je crois que pour les chrétiens, c'est pareil, hein, parce que comme c'est bizarre un peu de mener une vie, je dirais simplement, dans la pression actuelle du monde, qui est foutraque, pour le moins qu'on puisse dire, hein, pour pas employer des mots trop crus, pour pas choquer ceux qui viennent la première fois. Mais c'est vrai que les chrétiens, il y en a des gens qui mènent une vie normale. Mais il n'y en a quand même pas des foules, quoi. Donc le chrétien, je sais pas, qui reste avec sa femme toute sa vie, ça fait bizarre, quoi. En plus, il a des enfants et s'ils sont pas tous divorcés, je sais pas quoi, on dit, tiens, mais comment tu fais pour toi, t'es drôle, toi, qu'est-ce que t'as, enfin, t'es même un peu agaçant, quoi. Mais bah, ça peut provoquer les gens à réagir, il y a peut-être le christianisme, c'est quand même pas mal. Non, mais c'est vrai. Et dans les œuvres caritatives aussi, il y a beaucoup de chrétiens. Il n'y a pas que des chrétiens, mais il y a beaucoup de chrétiens aussi. Et c'est vrai que ça rayonne, ça c'est le deuxième volet, c'est les béatitudes de l'action, les dons du Saint-Esprit, donc... la béatitude de la faim et soif de justice avec le don de force, et la béatitude des miséricordieux avec le don de conseil. Ça, c'est les béatitudes de l'action. On a dit qu'il faut se séparer du péché, c'est la vie purgative, et après il faut agir. Ça, c'est la vie active. Agir, c'est dire exercer les vertus. Hein, la vie active, pour les anciens, c'est la vie, c'est pas la vie technicienne seulement, c'est même qu'un aspect assez dérivé, c'est la vie humaine, c'est la vie normale. La morale, c'est la vivre moralement, c'est vivre humainement. Et donc la vie active, c'est la vie, on vit comme des hommes, dans la cité, dans la profession, dans la famille, etc. Et donc là, le Saint-Esprit aussi nous aide pour avoir une certaine largeur, si vous voulez, dans cette action. Et je dirais que cette largeur, on la voit même dans nos monuments chrétiens, quand vous êtes dans un pays chrétien. L'impact, si vous voulez, historique. Moi, je suis passé, je vous l'ai déjà dit peut-être à vous, par une phase d'agnosticisme hein, pendant 5 ans. Mais pendant ces 5 ans, j'étais agnostique, j'étais persuadé que l'Église catholique était bien. Pourquoi ? Parce que je voyais que philosophiquement, politiquement, historiquement, elle avait fait plein de trucs bien. Et en ayant étudié l'hindouisme, l'islam et quelques autres trucs, le bouddhisme, je trouvais qu'il y avait moins de trucs bien. Et plus j'ai étudié l'islam, moi j'ai trouvé de trucs bien. Enfin, par rapport au catholicisme. Il y a quelques trucs bien, mais c'est quand même pas le pied par rapport au catholicisme. Et par rapport à l'impact de la civilisation, c'est quand même très différent. Moi je le dis parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance des chrétiens à trouver tout ce qu'ils font mal. Et à faire des repentances, à n'en plus finir. Alors que je pense qu'il faut qu'ils voient aussi que l'Église a eu un impact sur la civilisation qui est tel que les gens attaquent l'Église avec les biens qu'elle leur a mis dans les mains. La dignité de la femme en particulier, ça vient directement de l'Église. Hein, le respect de la personne, le problème du sujet, de la personne, c'est une invention du christianisme, enfin, avec les controverses sur le Christ, etc. Bon, l'autonomie relative de la philosophie et des sciences, ça vient d'ici, de la Sorbonne et quelques autres facs, où avec les penseurs chrétiens, au contact de l'islam et du judaïsme, on a vraiment compris que la philosophie avait une certaine autonomie, mais ça ne vient que du christianisme. Dans la preuve, en islam, actuellement, la voix, pour la plupart des intellectuels, ils en souffrent, la plupart des intellectuels musulmans sentent que la voie de l'interprétation, la voie de la raison est fermée, parce que c'est trop dangereux. Parce que si on soumet le Coran à une analyse critique, et qu'on fait jouer la raison, comme on l'a fait jouer au 10e, 11e, 12e siècle, avec une discussion avec les Roumes, enfin les non-musulmans, eh bien évidemment, l'islam risque de perdre sacrément des plumes. Parce qu'au point de vue crédibilité, il tient beaucoup moins la route que le christianisme. Enfin, c'est ce que Saint Thomas montre en particulier dans la Somme contre les gentils. Mais moi j'étais frappé des bienfaits temporels du christianisme. Et je crois que c'est une chose qui peut guider les gens vers la foi. Le fait de voir que cette religion qui a mis le Saint-Esprit quand même dans le cœur des gens par le baptême a aussi eu des avantages sociaux, familiaux, politiques, intellectuels, philosophiques et même scientifiques, puisque c'est en milieu créationniste qu'est née la science moderne, hein, et en milieu chrétien en particulier. Parce que c'est seulement chez des gens qui croient en un Dieu différent du monde qu'on peut s'intéresser à la valeur du monde comme tel. C'est seulement chez les gens qui pensent que le monde est créé, que le monde est intéressant à si vous voulez, à aménager. Parce que si vous pensez à un éternel retour, vous voyez, même dans la philosophie grecque qui est la philosophie de l'éternel retour, pourquoi aménager le monde? On fait de la métaphysique, ça suffit. En hindouisme ou dans les civilisations d'Extrême-Orient, vous avez un éternel réincarnation. Il faut sortir de l'illusion, le monde est un piège. Est-ce que dans la Bible, on nous dit Dieu a créé le monde et c'est bon. Donc vous allez-y, bidouillez pas trop, parce qu'il y a une écologie, une saine écologie chrétienne. Ne cassez pas le monde, hein, donc si vous agissez moralement, vous ne le casserez pas. Si vous le cassez, c'est que vous n'êtes pas humain. Mais dominez-le, il est à votre service, donc c'est intéressant. Étudiez-le aussi. Donc voyez, ça c'est un peu des reflets, si vous voulez, peut-être des dons du Saint-Esprit de l'action, le don de force et le don de conseil, qui rejaillissent dans l'ordre familial, dans l'ordre politique, à partir de l'action des chrétiens. Et c'est comme ça que s'est fait le passage du paganisme au christianisme. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le christianisme est arrivé dans des circonstances où l'ensemble de la civilisation qu'il a rencontrée ne lui était pas favorable, soit philosophiquement, soit mais surtout politiquement, à cause du paganisme institutionnel. Ça va? Vous avez une question? Non? Est-ce que vous avez le résumé? Alors, il faut le résumer. Donnez-lui le jet d'état de résumé là.
Il y a de la place au fond d'ailleurs.
Il y a de la place ici, il y a. Bon, donc un certain rejaillissement, si vous voulez, ça c'est un peu de l'apologétique, on développera ça beaucoup au RJC, là, notre université d'été, qu'on va faire à Saint-Laurent-sur-Sèvre. On va beaucoup insister, si vous avez l'occasion de venir, je vous le conseille vraiment, ou envoyer des gens qui sont motivés, parce que je pense que ça fait vraiment 5-6 jours, on a une grande densité de communication et de formation, et on va insister beaucoup sur ces éléments-là. Mais je crois que c'est important que je les signale ici aussi, pour vous montrer qu'il y a une certaine unité, entre la spiritualité, il y a de la place à... Entre la spiritualité et puis la... Si vous voulez, l'idée de base un peu de mes cafés catés, comme de tout ce que je fais dehors, en dehors, c'est de montrer que la religion, c'est pas un truc en dehors du réel. Oui. Parce que c'est un truc beaucoup trop répandu, on se dit, il y a la vie quotidienne, il y a la vie réelle, et puis il y a la religion qui est un truc soit foireux pour ceux qui sont contre, soit pour se shooter un peu, pour se donner un peu de LSD spirituel pour avoir la pêche, ou pour s'évader du monde avec les visions de la foi qui sont complètement incontrôlables. Mais ça, c'est pas vrai. La foi, c'est aller plus loin dans le réel. Donc si on est plus dans le réel, c'est normal qu'il y ait des conséquences dans l'histoire, dans la famille et tout ça. Et donc il y en a eu, là. Et alors maintenant, on va arriver à un troisième volet. C'était un peu long l'introduction là, pour arriver au don de la contemplation, mais je crois que c'était important parce qu'il y a vraiment ces deux étapes. Il y a la fuite du péché, et il y a l'action, et il y a la contemplation. Et donc dans ce qu'on appelle les dons de la contemplation, dons d'intelligence, on parlera de dons de sagesse en octobre. On va parler d'un des deux très importants dons de la contemplation, le don d'intelligence, qui nous fait rentrer dans un aspect très important du christianisme comme religion de la vérité, comme religion de la contemplation de la vérité, et qui est préparé par une vie sainte qui fuit le péché. Vous voyez, pour Aristote, vous avez dit, il y a la béatitude bestiale qui consiste justement dans des plaisirs qui ne sont pas proprement humains, et justement les dons du Saint-Esprit, la première partie, nous fait fuir cette fausse béatitude, dans laquelle malheureusement beaucoup d'hommes sont aujourd'hui plongés, la recherche des jouissances de toute nature, de l'argent, du pouvoir, enfin des éléments dominateurs et manipulateurs, qui occupent le bref espace de la vie, malheureusement, de trop d'occidentaux, et c'est vraiment pas un modèle qu'on donne ni aux musulmans, ni à l'extrême-orient, ni aux africains, mais enfin c'est comme ça. L'Occident, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique du Nord, et tout ce sur quoi ça déteint, véhicule un espèce d'hédonisme, hein. Ça vient d'un mot grec qui veut dire le plaisir par-dessus tout, le fric, la rentabilité, l'efficacité, le virtuel à tout prix, le machin, tout ce qu'on peut faire, on doit le faire, fabriquer des enfants, non seulement dans des éprouvettes, mais en les clonant, enfin tout, voilà, une espèce de délire complètement méphistophélique ou prométhéen ou faustien qui détruit l'homme. Et on voit, les gens sont tristes, hein, parce que c'est vrai que l'homme n'est pas fait pour se manipuler lui-même. Il est fait pour vivre. Et il est fait pour vivre dans la morale, dans la contemplation, dans l'art, dans la politique, dans la vie de famille. Ça, c'est la vie. Mais l'auto-manipulation, si c'est un instrument, il y a des instruments informatiques, tout ça. Mais il faut les mettre à leur place, c'est pas si facile que ça. Parce qu'aujourd'hui, ils prennent, je crois, beaucoup trop de volume dans l'horreur de votre journée. Et je crois qu'une saine vie chrétienne commence par faire un peu de balayage. Moi, je suis étonné, actuellement, je prêche des retraites sur les mystères du rosaire, là. Hein, 4 jours au mois de juillet, 5 jours au mois d'août. Et on n'a pas foule, on a des groupes de gens motivés. C'est vraiment, je suis très édifié par les gens. Mais les gens ne trouvent pas, et vous en particulier, vous ne trouvez pas 4 jours pour faire une retraite. Ça m'étonne beaucoup. Là. Tâchez de les trouver au moins avant de vous casser la pipe sur un platane à 120 à l'heure en sortant de la route à 3 heures. C'est peut-être mieux d'avoir fait la retraite avant, quoi. Et puis maintenant, vous avez bien vos ménages à vous. Et c'est vraiment, je vous assure que ça booste vraiment terriblement, parce que ça nous met vraiment dans une ambiance, même je dirais naturellement, presque plus humaine, parce que vous n'avez pas vos 4 heures d'Internet, et vos 4 heures de télé, et de MSM, et de... Enfin, je sais pas quoi, combien vous en avez, vous, mais... Il paraît que quand on fait la moyenne, on arrive à des totaux absolument fabuleux, quoi. Donc, qui coupe, qui tout ça, font tout. Ça fait de la réflexion en moins. Hein. On nous a dit que le Da Vinci Code avait été fait uniquement par du copier-coller. Ça ne m'étonnerait pas, parce que vu le résultat, c'est assez nul. Hein. Mais en tout cas, une thèse qui est faite en papier-collé, vous la repérez tout de suite. Hein. Enfin, tu vois, dans les matières que je connais, ça... Parce que ça ne pense pas un ordinateur, mettez-vous bien ça dans la tête. Hein. Les crétins qui parlent d'intelligence artificielle ne savent pas ce que c'est qu'un homme. Il y a un instrument qui calcule beaucoup plus vite que vous. Mais même en faisant calculer le plus près performant des ordinateurs et en mettant toute l'énergie de la Terre depuis qu'elle existe, depuis etc., et jusqu'à encore 15 milliards d'années, vous n'arriverez pas à calculer avec un ordinateur les états de l'œil. Alors donc, il y a un seuil de transculcabilité qui doit nous calmer. Et encore, c'est du calcul. Mais il n'y a jamais une pensée. Tout ce qu'il fait, c'est qu'on l'a mis virtuellement dedans. Ça prouve que l'homme est assez intelligent. Quoi. Mais c'est vraiment énervant, les mecs qui pensent... Moi, je me souviens, j'étais assistant à un truc à NIUT. J'essayais d'enseigner des maths à des informaticiens. Enfin, c'était les bébés informaticiens des années 70. Ben, ils étaient nuls en maths. Hein. Je crois qu'ils les amusaient parce que je vois, je faisais des grimaces. Enfin bon, ils aimaient bien mon poulet, mais ils étaient nuls en maths parce qu'ils avaient fait que ce qu'on appelait les maths modernes avec des patatoïdes qui s'entrecoupent. Là. Ils n'avaient jamais essayé de voir des maths intuitives à partir du mouton, du réel, enfin je sais pas, bon. Mais bon, alors j'ai essayé de leur faire faire des maths. Et quand j'ai quitté pour la vie religieuse. J'ai été voir le directeur, dire je pars. Je voulais me reprendre l'année prochaine. T'es un polytechnicien, le mec. Cato. Cato. Cato de gauche, j'imagine. Alors, type sympa, on est en Paris. Il me dit, qu'est-ce que vous faites l'année prochaine? Ben, je rentre dans la vie religieuse. Il dit, ah bon, alors là, vous partez complètement ailleurs, ça n'a rien à voir. Tout. Je lui dis, écoutez, non, enfin, il y a quand même l'intelligence. Hein. La vie chrétienne comporte une part d'intelligence. Et je crois que, bon, je l'ai développé, j'ai essayé comme étudiant, en faisant des maths, parce que là, en maths, on pense. Et moi, on pense aussi dans beaucoup de choses, mais là aussi. Mais là, je vais la développer en philo, en théologie. Ah, non. La religion, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, me dit le mec. Ah, il a fait vite, hein, ce gars. Je crois qu'il a été son rang d'intégration, mais... Il était peut-être pas dans la botte, hein, mais... Bon, alors le type, non, il n'y a pas au ciel, il n'y aura pas de vision béatifique, c'est pas l'intelligence qui fonctionne. Ah, j'ai dit, ah, merde, alors pourquoi être chrétien, moi? Je vais me faire soufi ou je vais relire les Bhagavad Gita, là, ou les Upanishads, parce que là, au moins, il y a de la pensée, quoi, ou le livre des morts, des Égyptiens, un truc un peu fascinant, là. Mais attendez, il y a de la pensée dans le christianisme, c'est même là, il y en a le plus. Donc, si vous voulez, quand je quittais ma section scientifique, là, je ne pensais pas complètement déserter le domaine de l'intelligence, quand même. Alors, justement, on va y venir avec les dons de la contemplation, qui sont très importants, parce que, vous voyez, donc, cette vie, fuite du péché, cette vie active pour exercer les vertus, ça, pour saint Thomas, même pour Aristote déjà, c'est des préparations de la béatitude. La béatitude, elle est dans la vérité. Ça, c'est formidable. Où est-ce que la béatitude? Alors, il analyse tous les points où peut se trouver. Et il montre qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui ne colle pas. Dans la jouissance, dans les arts, dans la politique, ben, il y a des choses intéressantes, mais ça ne suffit pas. Et il montre que finalement, elle peut se trouver dans la connaissance de toute la vérité, donc dans la vision même de Dieu qui est l'être infini. Et donc, le christianisme, c'est la religion qui nous dit ça. Et ça, je crois qu'il faut se le redire. Quand le pape actuel est venu ici, il y a 5 ans, à la Sorbonne, en l'an 2000, pour un colloque qui s'appelait « 2000 ans après quoi ?». Il avait une conférence qu'il a faite sur le catholicisme religio veritatis, la religion de la vérité. Il a montré que l'originalité du catholicisme dans le contexte politique de l'Empire romain, de l'hellénisme philosophique et bon, du monde où il était, c'était qu'il y avait des religions poétiques et mythiques, il y avait des religions politiques qui avaient pour but d'obtenir la conciliation des dieux pour la victoire de l'Empire, il y avait des religions physiques qui étaient simplement au fond une réflexion sur la marche du monde, mais il n'y avait pas de religion métaphysique qui prétendait arriver à la vérité transcendante complète sur Dieu, et donc sur l'homme qui a été créé par Dieu. Et donc il a montré, c'était magnifique, cette conférence a été publiée depuis, et même dans un livre qu'il a fait, et une très très belle conférence, faite ici à la Sorbonne, donc le christianisme comme religion qui dit avoir pour but de mener l'homme à la vérité. Donc l'aspect contemplatif est extrêmement important. Et ça, je crois qu'il faut se rappeler. Alors pour ça, on a les dons du Saint-Esprit, qui sont l'intelligence et la sagesse, et qui vont venir perfectionner la foi. Hein, parce qu'évidemment, la capacité de pénétrer la vérité dans l'ordre surnaturel, c'est la foi. On en a parlé il y a 4 ans ou 5 ans. C'était le premier café caté sur la foi. Je ne sais pas s'il y a des vétérans, des fois. Pas beaucoup, mais hein. Vous, peut-être. Voilà, on a 3 ou 4. Donc on avait essayé d'expliquer ce que c'était que la foi. Et la foi, c'est une capacité vous y étiez, vous aussi? C'est une capacité d'aller dans le réel, si vous voulez. Le réel divin, et à partir du réel divin, dans le réel de la création. Dans la foi, je rentre dans la vue et dans la connaissance que Dieu a sur toute chose. D'abord lui, qui est Trinité, et ensuite l'incarnation, le Christ, qui est Dieu, vrai Dieu et vrai homme, et puis la création qu'il a fait pour que l'homme soit à son image et puisse recevoir le don de sa vie secrète, sa vie intime, qui est la vie divine. Et donc, on voit les choses avec l'œil même que Dieu a, c'est une participation à la lumière même de Dieu, à l'intelligence même de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui est dans l'intelligence. Je vous signale, parce que les modernistes nous disent que la foi est un sentiment. Et bien, la foi peut être aidée par le sentiment, ou quelquefois combattue, d'ailleurs. Elle n'est pas toujours aidée par le sentiment, mais la foi n'est pas un sentiment. La foi est un acte de l'intelligence, poussé par la volonté, mais la volonté est quand même mue par la grâce, bien sûr. La foi est un don. On ne peut pas avoir la foi en claquant comme ça des doigts, il faut la demander à Dieu. Parce qu'elle nous fait voir une vérité qui fait éclater ma tête, si vous voulez. Elle me fait adhérer à la Trinité. Les deux grands objets de la foi, c'est la Trinité et l'incarnation. Et elle me fait adhérer à des vérités qui dépassent totalement mon intelligence. Donc je ne pourrais pas, même si je sais que le Christ est crédible, par les miracles qu'il a fait, par l'évangile qu'il a écrit, donc c'est normal que je le croie. Et puis par l'église qu'il a fondée, on verra tout ça, où RJC, toutes les raisons qu'on a de croire. Vous voyez, saint Thomas dit, celui qui croit ne croirait pas s'il ne voyait que ce à quoi il adhère doit être cru. Donc il y a un élément de... On voit de façon claire, différemment pour chacun, mais qu'il y a des motifs de croire. C'est tout à fait le contraire de la vision de la foi de certains existentialistes comme Kierkegaard qui dit « Credo cui absurdum », je crois parce que c'est absurde. Et pour beaucoup de modernes, la foi c'est un truc absurde. Vous croyez mais vous êtes chauffé, quoi, vous avez la foi, voilà, c'est un truc bizarre. Ben attendez, si c'était absurde, si j'avais la statue que c'était absurde, je ferais un péché mortel en exerçant ce que les chrétiens me demandent d'exercer en faisant la foi, saint Thomas le dit noir sur blanc. Si quelqu'un a la certitude, lui, par des erreurs originelles, que Christ n'est pas Dieu, il fera un péché mortel en adhérant à la divinité du Christ dans sa tête. Donc vous voyez qu'il y a un élément de vérité absolument infranchissable. Celui qui adhère à la foi, adhère à la révélation que Dieu fait de lui-même, parce qu'il a des signes de crédibilité qui lui montrent que c'est raisonnable, que c'est pas absurde du moins, et qu'il y a des indices qui nous montrent que bon, il est normal d'incliner son cœur et d'écouter un témoin qui n'est pas menteur et qui n'a aucune raison de nous tromper. Et donc là, la grâce joue parce que même quand je me suis dit ça, ça ne va pas suffire complètement. Parce que c'est quelque chose qui dépasse tellement notre intelligence que pour faire le passage, si vous voulez, il faut que ma volonté soit ensemencée par la motion divine. Donc la foi, il faut la demander. Si vous travaillez pour amener des gens à la vérité, à la foi, il faut leur présenter la vérité du christianisme, bon, bien sûr, avec ce que vous avez à votre main, des livres, des sessions, que sais-je, et des prédications, mais aussi il faut prier pour que leur cœur s'ouvre, parce que celui dont le cœur est fermé ne peut pas arriver à la foi. Oui, il faut bien dire une chose, c'est que la foi est nécessaire au salut. Donc, tout homme qui ouvre son cœur reçoit une grâce qui va le mener tôt ou tard dans sa vie à une foi au moins implicite dans les vérités que Dieu a révélées. Parce que sinon, elle ne pourrait pas être sauvée. Or, Dieu veut le salut de tous les hommes. Donc, vous voyez, il y a un cheminement. On ne sait pas où les gens se trouvent, mais il faut prier pour qu'ils avancent sur ce chemin et qu'ils ouvrent leur cœur, si vous voulez, que leur cœur soit en état d'interrogation, vous voyez. Mais je pense que c'est une chose qu'on peut comprendre. Vous voyez, le chercheur, par exemple, en science ou l'artiste en art, c'est quelqu'un qui cherche. Le mec qui cherche plus rien, qui se pose plus aucune question, ben il trouve rien. C'est automatique. Donc il faut chercher ceux qui cherchent. Il y a des gens qui cherchent rien, bon ben, d'accord, on peut pour eux de moins. Mais il y en a qui cherchent. Et il faut les chercher ceux-là pour leur essayer de les amener. Mais vous voyez, s'il y a une interrogation dans le cœur, eh bien, Dieu va pouvoir rentrer par cette interrogation. S'il n'y en a pas, c'est qu'on s'est protégé contre Dieu. Et c'est possible de le faire. L'homme est assez fort pour refuser Dieu. Et il y en a qui le font, je vous le garantis. Soit il ne prend pas le temps, parce qu'il est toujours occupé à autre chose, mais il sait qu'il doit le faire, mais il repousse toujours au lendemain. Soit carrément, il dit non. Il dit, ben oui, il y aurait quelque chose à creuser. Regardez ces grands arguments de Pascal, oui, non. Les pensées de Pascal, il insiste beaucoup sur le fait que les gens, pour leur vie de tous les jours, ils font plein de trucs. Ils travaillent, ils font ci, ils font ça. Mais pour rechercher le salut, qu'est-ce qu'ils font? Quel temps ils consacrent à trouver quelle est la vraie religion? Est-ce que le Dieu existe? Est-ce que le Christ est Dieu? Est-ce que le christianisme est la vraie religion? C'est comme des questions intéressantes. Et combien de temps les gens y consacrent? Ben, c'est pas énorme. Alors après qu'ils ne trouvent pas, c'est pas tellement étonnant. Hein. C'est logique au fond. Parce qu'au fond, on trouve ce qu'on cherche. Et donc, il faut essayer de ramener les gens un peu à... Là, la mort, ça les aide aussi. Quand ils ont un décès chez leurs proches ou les circonstances dramatiques. Hein. Moi, j'ai confessé dans un pays après 15 ans de guerre. Donc, je peux vous dire que je voyais sur les confessions l'impact de la guerre. Quoi. Donc, ça fait réfléchir, forcément. Vous dites, bon... Ben, le monde, qu'est-ce que c'est? C'est quand même quelque chose de très... On a des espaces de paix, et c'est toujours très fragile. Ça peut très bien, tout peut être submergé par la barbarie. Mais les gens, votre génération, peut-être je ne sais pas ce qu'elle en pense, mais moi je suis beaucoup plus vieux, donc je sais par cœur la phrase de Valéry qui a dit après la guerre de 14-18, où l'Europe s'est entretuée dans une guerre fratricide, nous savons, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Parce que peut-être que l'Europe s'était peut-être dit que ça y est, c'était une civilisation immortelle, mais il n'y a aucune civilisation qui a duré 1000 ans, maximum. Hein. C'est ça, 800, 900, 1100, 1200 ans, mais ça, ce que dit Pascal aussi dans ses pensées. Hein. Il dit l'Église dure depuis 2000 ans, mais les empires, les lois, c'est rare que ça dépasse 1000 ans. Donc tout est très fragile et puis notre vie encore plus. Donc c'est sûr que la mort doit nous ramener un peu à ces grandes questions et nous faire poser la question de la foi et de l'objet de la foi. Mais alors ça, nous avons besoin là aussi d'être aidés par le Saint-Esprit. Ça c'est le volet qui monte ou qui descend. Parce que dans la foi, il y a un gros problème, c'est qu'on n'a pas la vision, vous voyez. Quand vous avez la foi, vous adhérez, par exemple, vous croyez à la Trinité. Normalement, tout chrétien croit à la Trinité. Il y a la divinité du Christ, qu'il est vrai Dieu, vrai homme. Bon. Il y a encore un certain nombre d'autres choses auxquelles il faut croire, et qui font partie du credo, et qui font partie des dogmes définis par l'Église. Mais on adhère à un de ces dogmes. Par exemple, on dit, bon, ben Dieu est un seul, il est un, mais il y a trois personnes. Bon, ben ça, c'est pas absurde. Toutes les objections qu'on a fait contre, on a pu les réfuter métaphysiquement, mais c'est au-delà de ma raison. Ça ne veut pas dire que c'est inintelligible, l'intelligence de Dieu le comprend, et mon intelligence ensemencée par la lumière de Dieu adhère à ce mystère-là, mais il me dépasse de partout, et donc forcément, mon intelligence va avoir un mouvement de balancier, je vais être accroché par la foi à cette vérité, mais mon intelligence va avoir une espèce d'inquiétude naturelle, oui. Parce que l'intelligence est faite pour voir. Et donc la foi est une situation inconfortable. Et c'est pourquoi il faut faire attention qu'il y a une sorte de mouvement qui accompagne tout mouvement de foi, l'inquiétude de la foi, le questionnement de la foi, on se pose des questions sur la présence réelle, sur comment est-ce que la divinité du Christ est compatible avec ses souffrances sur la croix, etc. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'on a perdu la foi. Il y a pas mal de gens qui confondent. Hein. Les questions, les objections, tout ça, c'est... ça vient, c'est normal. Mais notre esprit reste accroché là-haut. Alors là, on a besoin du don d'intelligence pour aller plus loin dans le mystère, vous voyez, pour que le Saint-Esprit lui-même, qui est dans notre âme, fasse que notre intelligence rentre dans le mystère avec le... si vous voulez, parce qu'on l'aime, vous voyez. Parce que tous les dons du Saint-Esprit sont fondés sur le fait qu'on aime Dieu. On les a quand on a la charité. Si je perds la charité, j'ai plus les dons du Saint-Esprit. Et donc, quelqu'un qui aime... il connaît mieux celui qui aime que celui qui ne l'aime pas. Hein, c'est très connu, il y a une connaissance par sympathie, par connaturalité, et par habitude aussi d'une longue cohabitation. Donc on lit les sentiments de quelqu'un sur son visage. Je lis en vous, vous voyez. Le mot intelligence vient du mot aussi, semble-t-il, lire. L'intelligence, c'est ce qui va lire dans les choses leur contenu intime. L'intelligence, c'est pas seulement celui qui décrit, qui fait une simple description, vous voyez. Une base de données, ça, non. L'intelligence, c'est celui qui, à partir de la base de données, va voir la problématique sous-jacente. Va voir l'essence des choses qui sont manifestées par toutes ces données extérieures qui nous apparaissent. L'intelligence, c'est le mouvement d'un philosophe qui, observant les hommes, qui construisent des cités, qui se parlent, qui échangent, qui font des beaux-arts et tout, en conclut, l'homme est un animal politique. Un animal raisonnable et politique. Et ça, c'est une puissance de lecture dans le réel, qui fait qu'à partir de tout ce qui se voit à l'extérieur, qu'on appelle les accidents, l'extérieur des choses, ben il va à l'intérieur, et il va un peu, si vous voulez, au disque dur de la réalité, qu'on appelle l'essence, et son intelligence, de façon certaine et sûre, au moins pour certains cas comme celui de l'homme, arrive à adhérer à la profondeur des choses. Et l'homme est le seul être vivant, à part l'ange, mais l'ange on ne le voit pas, qui peut faire ça. C'est-à-dire que l'homme, à partir des réalités sensibles, il va lire à l'intérieur de ces réalités, leur vérité profonde, à différents niveaux, métaphysiques, physiques et mathématiques. Hein. C'est sûr qu'il y a différents niveaux de lecture de la réalité qui ne sont pas exactement au même plan, qui ne se contredisent pas, mais c'est vrai qu'on va lire, par exemple les astrophysiciens modernes vont lire dans les phénomènes qu'ils observent, au fur et à mesure que ces phénomènes s'accumulent, qui sont interprétés, relus, etc., ils vont arriver à lire des rapports quantitatifs que les gens avant n'avaient pas vus. Tout le monde a vu tomber des pommes. Mais x égale 1,5 GT2, il n'y a qu'un mec qui l'a trouvé, c'est Newton. Tout le monde a vu tomber des pommes, enfin tous les gens qui habitent dans les pays où il y a des pommes, quoi. Mais Newton, en voyant tomber sa pomme, s'est dit, tiens, si qu'on dirait qu'il y a la gravitation universelle. Il a été lire à l'intérieur des choses une vérité, parce que c'est une vérité, la gravitation. Hein, je vous dis pour certains imbéciles qui pensent que la science n'atteint pas la vérité. Ça, j'en ai toujours fait rigoler. Hein, c'est souvent des littéraires, mais pas toujours. Parce qu'il y a des scientifiques qui sont persuadés que, en fait, ce qu'ils font n'est rien, quoi. Bon, parce qu'il y a des gens bizarres partout. Hein. Mais, donc la science atteint quand même la vérité. Et donc cette vérité, si vous voulez, cette réalité qui a entre les corps quelque chose que Newton a appelé la gravitation et dont on peut mesurer certains aspects quantitatifs qui sont toujours dans ce rapport-là, enfin aux erreurs d'observation près, et bien ça c'est une réalité, et c'est l'homme qui a lu ça. Et il ne suffit pas de voir tomber la pomme, il faut aussi être, si vous voulez, au contact des choses, être une certaine profondeur de génie pour se dire, tiens, au fond, les corps s'attirent, quoi. Les corps basiques, hein, ce qu'on appelle, oui, les corps, enfin, la matière, enfin voilà, une certaine réaction entre eux qui est cette force-là. Et donc, vous voyez, cette capacité de lecture, ben, Dieu nous la donne dans la foi, c'est le don du Saint-Esprit, le don d'intelligence. Et quand on lit l'Écriture, c'est quelque chose, vous voyez, qui va nous faire aller à l'intérieur de l'histoire sainte, par exemple. C'est-à-dire qu'on va aller, vous allez lire la Bible, hein, c'est bien de lire avec des notes, vous avez quand même des bonnes éditions, surtout le Nouveau Testament, mais même certains livres de l'Ancien Testament, c'est plus difficile l'Ancien Testament. Mais quand on possède bien le Nouveau, c'est vraiment intéressant de lire, parce que j'avais des bonnes éditions avec des notes, pas des modernistes ou des mecs qui n'arrêtent pas de dire tout ça c'est faux, ça n'a pas pu exister, parce que si, parce que ça. Non mais il y a des bonnes éditions. Et là vous vous rendez compte que, c'est vrai que vous voyez par exemple, actuellement je suis en train de lire l'Exode, hein, la sortie des Juifs d'Égypte. Et en fait, c'est une prophétie, si vous voulez, ça a eu lieu historiquement, bon. Mais surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que Dieu a pris ces gars-là, puis pof, il les a pris et les a mis ailleurs. Et en fait, les détails, si vous voulez, concrets, sont intéressants, on les reconstitue avec l'archéologie, tout ça, et en comprenant mieux les langues sémitiques, il y a eu d'énormes travaux qui ont été faits, en particulier par des dominicains, hein, bien entendu, sur le syriaque, sur le copte, sur tout ça, et surtout les dialectes, les langues, les anciennes civilisations au contact duquel se trouvaient les Hébreux, ce qui fait qu'on a une énorme documentation qu'on n'avait pas il y a 100 ans, qui permet en fait de... C'est assez frappant de voir le caractère incroyablement vivant de la Bible. Ça me frappe beaucoup, parce que je me tiens un tout petit peu, je suis pas un spécialiste des langues orientales, mais je me tiens un petit peu au courant des choses, et c'est vrai que c'est quand même vraiment très frappant, on se dit, mais c'est vraiment quelque chose de très vivant qui reproduit, enfin avec des grandes différences, mais comme des choses qui se passaient ailleurs, mais c'est un peuple qui était marqué par Dieu. Voilà, pof, ils étaient plus, paf. Et le fond, c'est ça, c'est l'histoire du salut. Il y a un peuple qui a été choisi et puis qu'on leur a donné un pays. Voilà, et on l'a choisi pour préparer la venue de Dieu sur la terre. Hein. Et ça, c'est ça le fond de l'histoire du salut. Mais vous avez tout un ensemble, et si vous arrêtez qu'au dehors, ben vous allez caler. Parce que vous dites, c'est injuste, pourquoi les Juifs et pourquoi pas les Bretons? Par exemple, les Bretons, ou les Basques, hein, ou les Libanais, enfin je sais pas, pas les Juifs. Hein. Votre vieux fond antisémite se réveille là. Et vous dites pourquoi c'est les Juifs. Alors, et même quelqu'un qui était juif comme Simone Veil, elle peut pas sentir l'Ancien Testament. Simone Veil, je parle de la philosophe, bien entendu. Parce que vous êtes des jeunes, vous savez pas. Il y a une grande philosophe, c'est Simone Veil, qui a écrit des choses assez intéressantes, qui était une philosophe qui est morte, je crois, pratiquement catholique, mais par tout un itinéraire, à partir de la philosophie grecque et de tout un cheminement. C'est la figure du Christ qui l'a fasciné. Son père spirituel était un dominicain aussi du couvent de Marseille, le père Perrin, qui était aveugle. Et donc lui, il conduisait vraiment les gens à l'essence des choses, parce qu'il a été comme aveugle, il a été obligé d'aller très loin. Non. Et donc elle trouvait scandaleux l'histoire du peuple juif. C'est des mecs qui arrivent, qui tuent tout le monde et qui s'installent à la place. Ben, c'est un peu vrai. Alors ça ne veut pas dire qu'on va trouver que c'est très bien, mais je dirais qu'il ne faut pas... Il y a eu des injustices absolument incroyables. Bon, aussi il faut dire que ça correspondait aussi un peu aux mœurs de l'époque, hein, parce que tout le monde faisait ça. Aujourd'hui, la grande mode, c'est de dire, attendez, on va analyser les affûts, les trucs, et puis on va leur appliquer les critères de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, et puis la charte de l'ONU, et puis le truc de Bruxelles, et puis si c'est pas conforme, on va faire une repentance, là, pourquoi ils ont pas fait comme ça, etc. Bon. Alors là-bas, c'était faire passer la charrue sur les prisonniers de guerre, c'était le châtiment au Bénin, quand le roi était de bon poil, quoi. Non, mais c'est dans les psaumes, c'est ça, quand vous lisez les psaumes, moi ma mère, elle disait les psaumes aussi, il y en a un qu'elle n'arrive pas à dire. C'est celui, on dit, bienheureux Babylone, celui qui prendra les bébés et qui leur cassera la tête sur le rocher. Évidemment, si vous prenez au premier degré, c'est glauque, hein, c'est sûr. Alors Saint Benoît dit, ça veut dire, bienheureux celui qui prend les rejetons de la pensée diabolique et qui les brise contre le rocher qui est le Christ. Parce que vous savez que Saint Paul dit, le rocher, c'est le Christ. Donc le sens spirituel. Mais c'est vrai que quand un peuple de l'Orient ancien envahissait un autre, c'est ce qu'il faisait. Parce qu'on tuait tout le monde, on tuait tous les descendants du roi, les cousins, etc. C'était la conception de l'époque, mais de même qu'on piquait les dieux. Bon, il y a eu du progrès depuis, mais en partie le progrès, il est venu justement de la Bible et du catholicisme. Hein. Il n'est pas venu de la Déclaration des droits de l'homme qui arrive 1948 ans après. Ou la première, 1789. Bon, c'est venu du christianisme, hein, essentiellement, pas uniquement, aussi des Romains, des Grecs et d'autres. Mais du christianisme en grande partie. Alors c'est vraiment bizarre qu'après on aille bon. Ben alors, donc c'est pour vous dire que vous voyez, quand vous lisez l'Ancien Testament, Il faut aller au cœur du problème. Le problème, c'est que l'histoire du peuple juif est une parabole qui me concerne moi. C'est injuste, oui. C'est que Dieu appelle quelqu'un. Dieu appelle un peuple parce qu'il faut que Dieu s'incarne. Il veut s'incarner et donc il faut qu'il s'incarne quelque part. Et donc il prépare les gens pour l'incarnation de son fils. Voilà. Et de même, il nous a appelés, nous, au baptême, pof, il nous a fait passer la mer rouge du baptême et il nous a fait rentrer dans la terre promise qui est l'église, enfin les prémices du ciel, et puis après la rentrée définitive, c'est la rentrée dans le ciel. Et tout ça, c'est une pédagogie, si vous voulez, qui est très longue, en fait. On est quelquefois étonné parce que nous, on est la civilisation du style un peu American Way of Life, c'est-à-dire on claque dans les doigts, puis paf, faut que le truc arrive. Ben Dieu, il fait pas comme ça. Il y a des dizaines de milliers d'années, des milliers d'années de préparation, des pédagogies, Dieu utilise des éléments de la loi naturelle qui étaient là. Job, c'était un type qui n'était pas du tout ni juif ni rien du tout. Il était perdu dans une civilisation païenne. Bon, mais il a pratiqué la justice, etc. Dieu utilise des préparations évangéliques qui sont extrêmement longues parce que je crois que, si vous voulez, je crois que un jour, dans les premiers cafés cathés, l'un d'entre vous a posé la question, pourquoi chacun n'a pas une révélation directe de Dieu pour lui ? Et bien parce que Dieu veut avoir besoin de l'homme. Et l'homme est politique et historique. Donc Dieu passe par l'histoire et il passe par la société. Il y a des hommes qui enseignent d'autres hommes, il y a des générations qui éduquent d'autres générations. Il y a des progrès dans la connaissance de la loi naturelle qui prennent des siècles. Actuellement, le droit des gens, enfin tout ce qu'il y a de à peu près convenable dans le droit international, ça vient d'une élaboration qui a été faite très lentement à partir du droit romain, à partir des universités, en particulier de la Renaissance, Salamanque, en particulier la génération des grands, alors quand c'est des Dominicains, à Salamanque, qui ont élaboré le droit des gens à l'occasion de la découverte des Indes pour savoir comment il fallait traiter les Indiens. Mais ça a mis des siècles. Le droit maritime aussi, ça a mis très longtemps à se constituer. Parce qu'en fait, l'homme, si vous voulez, l'homme n'est pas d'un seul coup quelque chose de parfait. L'homme est un être perfectible, progressif, social, et très imparfait, et en plus pécheur. Donc Dieu tient compte de ça, et il efface pas tout le péché d'un coup. Vous voyez, quand un truc est raconté dans la Bible, ça ne veut pas dire que Dieu trouve que c'est bien. Et l'adultère de David avec la femme d'Uri, alors il fait tuer Uri pour qu'on puisse penser que le fils qu'il a eu avec cette femme est de lui, ben c'est une saloperie, quoi. Mais on nous décrit ça pour faire passer un message. C'est pas forcément qu'il faut tout prendre à la lettre et dire que tout ce qu'ont fait les patriarches, ben là c'est explicite parce que David s'est repenti, mais il y a d'autres choses où on ne voit pas le repentir immédiat, mais c'était la façon de faire de l'époque dans la polygamie des patriarches. C'est un exemple très classique, ça. Est-ce qu'il faut rétablir la polygamie sous prétexte qu'Abraham était polygame ? Ah, je sais pas, les garçons, les filles ont peut-être des réponses différentes. Hein. Mais non, il ne faut pas la rétablir. Parce que déjà, naturellement, c'est moins convenable à cause de la dignité de la femme. Et puis surnaturellement, le mariage, c'est l'image de l'union du Christ et de l'Église. Il y a un seul Christ et une seule Église. Donc c'est une des raisons décisives de la monogamie. Mais c'est vrai que la pente de la nature déchue pousse à la polygamie. Qui fait d'ailleurs une des facilités de diffusion de l'islam. C'est comme ça. Mais là, bon, mais il a fallu du temps pour qu'on comprenne qu'il ne faut pas suivre cette pente de nature déchue et que la dignité de la femme, la stabilité de la famille requiert qu'il y ait une seule femme comme il y a un seul homme. Et le Christ l'a sanctifié, il en sait comme ça au début et il en a fait un sacrement. Donc pour les baptiser, c'est absolument hors de discussion. Mais tout ça, c'est très long. Hein. Dieu n'a pas d'un seul coup supprimé la polygamie, il n'a pas non plus, Saint Paul n'a pas d'un seul coup supprimé l'esclavage. On a des cours, nous, d'histoire de l'Empire romain, fait par un prof très compétent là, de l'université de Laval, professeur Barbet, qui enseigne aussi ici à Paris, quelque part. Et c'est frappant de voir comment les premiers chrétiens ont fini par libérer leurs esclaves, mais les papes et les évêques n'ont pas pris des décisions juridiques immédiates, il a fallu attendre le 3e siècle ou le 4e siècle pour avoir l'affranchissement des esclaves. Ça s'est fait très progressivement avec le changement des cœurs et bon, l'Église n'est pas un organisme politique qui décrète des trucs sur un papier. Et... Parce que là, il y a une tentation, vous voyez, un peu, je dirais, c'est la tentation au désert, vous voyez, d'essayer que l'espèce de messianisme purement extérieur, il faut que ça vienne de l'intérieur, et là, il faut du temps. Donc voilà, c'est un exemple, il faut passer des dehors de l'histoire du salut à la réalité profonde de l'incarnation. Dieu a pris la réalité humaine, avec tout ce qu'elle comporte, sauf le péché. Mais il a été au contact du péché, il y avait un Judas autour de lui, etc. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Et le don d'intelligence nous fait aller plus loin là-dedans. Il nous fait aussi passer au sens profond des paroles de l'Écriture. Quand on lit la Sainte Écriture, c'est pas forcément facile. Et même si on la lit sans tradition et sans magistère, on arrive à toutes sortes d'interprétations. C'est frappant de voir chez les, dans les différents groupes protestants, si vous établissez comme principe que chacun bon, est inspiré par le Saint-Esprit, pas seulement comme je vous le dis là, par don d'intelligence, mais de façon charismatique pour trouver le vrai sens de l'Écriture, évidemment il va y avoir une panoplie extrêmement variée qui fera que, quand on s'éloigne des grands fondateurs comme Calvin et Luther, eh bien de plus en plus, la notion de vérité va être écartée du contenu de la religion. Parce que Luther était assez fort pour imposer son interprétation, mais après, comme il n'y a plus de magistère, forcément, donc le contenu, qu'est-ce que signifient les paroles du Christ à l'institution, ceci est mon corps, ceci est mon sang, chacun va penser ce qu'il veut. Sur l'Église aussi, sur toutes sortes de choses comme ça. Donc nous, nous avons le magistère de l'Église, et nous avons la tradition des pères de l'Église, et malgré ça, pour aller vraiment jusqu'au cœur des paroles, si vous voulez, on a besoin du Saint-Esprit aussi. On a besoin du don d'intelligence qui fait qu'on va aller, on va se rendre compte, si vous voulez se rendre compte, on va éprouver d'une façon ou d'une autre qu'au moment où on lit l'évangile, où le diacre ou le prêtre le proclame, en fait c'est Dieu qui est en train de parler. Et c'est une chose très émouvante qui se trouve dans l'évangile de Saint Jean. Il dit « Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils de Dieu est venu nous parler à son sujet. » Et donc, le Christ a parlé en araméen avec les gens, enfin, en araméen avec ses disciples, en grec avec, avec les Romains, semble-t-il, et il a prié en hébreu, hein, mais avec des langues humaines. Et donc, il s'est moulé, si vous voulez, il est passé par l'instrument des langages humains, et donc des vérités, des jugements humains, il a fait des jugements. Quand il a dit « Je suis », quand il a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie », c'est un jugement. C'est une vérité, le Christ est venu nous donner des vérités. Souvent on dit, voyez, le christianisme, c'est plus l'adhésion à une personne qu'à une doctrine. Et bien je pense qu'il faut un peu nuancer. Certainement c'est l'adhésion au Christ. Mais le Christ vient nous révéler la vérité de Dieu. Et il le fait très gentiment, c'est-à-dire qu'il le fait par des propositions humaines. Et donc, si vous voulez, il descend. J'avais de la place encore là-bas, si vous voulez vous asseoir. Même avec une... Donc il descend, si vous voulez, jusque dans notre fonctionnement humain, qui est un fonctionnement intellectuel et volontaire. Et donc il dit des choses. Et quand il les dit, évidemment, ça marque énormément parce que il trouve le moyen que ça véhicule la plus grosse densité de vérité possible. Ensuite, l'Église, au fond, va mettre tout le temps de son histoire à rentrer dans la profondeur de ses paroles. Donc vous voyez, il y a tout un mouvement qui fait qu'on va aller de l'extérieur vers l'intérieur, on va lire l'Écriture, mais en lisant l'Écriture, on entendra la parole de Dieu qui résonne dans nos cœurs. Mais moi, je suis frappé avec ça pour le dernier évangile. Dans le rite, dans les rites latins traditionnels, vous avez un dernier évangile où on lit le début de l'évangile de Saint Jean. Et c'est absolument magnifique. Ça, c'est vraiment une des parties les plus belles dans l'évangile. Quand vous entendez ça, vous dites, c'est les premières paroles de... Bossuet a une très très belle élévation sur ses paroles, les premières paroles de l'évangile de Saint Jean. Et vous dites, ben, c'est Dieu qui est en train de me parler à travers Saint Jean. Quoi. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et c'est des expressions qui sont extrêmement, extrêmement touchantes. Et il y a Saint Jean de la Croix a fait tout un magnifique, une méditation, un romance, enfin le terme technique de poésie castillane, c'est le romance, qui parle là-dessus et qui vous emmène très très haut, parce que c'est vrai que vous entendez Dieu qui vous parle et ça vous parle au cœur, forcément. Donc l'Esprit va nous mener jusque dans les profondeurs de Dieu. Et évidemment, il ne va pas nous donner des nouvelles révélations, sauf pour les cas des charismes dont je vous parlais, mais ce n'est pas ce dont on parle ce soir. Il va nous conduire à l'intérieur de la compréhension ce qui est dit. C'est-à-dire que, donc c'est mon deuxième point, là vous voyez, j'avance pas tellement vite parce que c'est une matière qui est très riche, un petit peu dense. Il va nous faire scruter les profondeurs de Dieu, non pas, si vous voulez, en nous faisant voir la c'est le deuxième, c'est la finesse de l'intelligence, en nous faisant voir le mystère lui-même, parce que ça, on ne verra qu'au ciel, mais en nous faisant voir, si vous voulez, la crédibilité du mystère. C'est-à-dire que plus vous approfondissez le christianisme, plus vous vous apercevez que ça tient la route. Enfin, c'est ma petite expérience à moi, mais je ne suis pas la seule à l'avoir fait. Et même en écoutant les objections des autres, hein, même des témoins de Jéhovah et autres, ou de l'évangile de Thomas, et autres conneries de même acabit. Mais même en regardant ça de près, l'autre jour, il y a un de mes pères qui, justement, à cause de Da Vinci Code, a demandé le texte de l'évangile de Thomas. Il s'est fait traduire par... C'est en anglais, donc il s'est fait traduire par notre frère anglais. puis il a écouté ça, puis j'ai vu le voir dans ma cellule, il était effondré, il pleurait pratiquement, il dit, mais c'est nul, c'est encore plus nul que les autres apocryphes que j'avais lus, quoi. Parce que la littérature des apocryphes, quand vous lisez, au pif, vous ouvrez un apocryphe, vous ouvrez, là, vous pouvez refermer au bout de deux lignes, et si vous avez déjà lu une fois tout l'évangile, vous vous rendez compte, c'est pas un évangile canonique. C'est tout de suite une espèce de farce et attrape, quoi. Il y a des trucs, il y a des beaux trucs dans l'évangile apocryphe, mais c'est beaucoup d'espèces, ça tombe tout de suite au merveilleux, des tas de miracles, le petit Jésus qui claque dans les mains, il y a les oiseaux, il fait des oiseaux en argile, il claque dans les mains, pas que les oiseaux s'envolent, enfin, il fait mourir des gens parce qu'ils ont dit, ils n'ont pas été gentils avec la Sainte Vierge, enfin. Et alors en plus, les gens là-dessus viennent nous raconter des trucs absolument hallucinants, parce que l'évangile de Thomas, c'est un évangile gnostique, enfin, il fait partie de toute cette grande courant, si vous voulez, qui méprise la chair et qui a une conception très méprisante vis-à-vis du mariage et des rapports sexuels. Donc venir nous raconter que l'évangile de Thomas nous apprend, enfin que les gnostiques nous ont appris que Jésus a eu des rapports sexuels avec Marie-Madeleine, c'est vraiment se taper la tête par terre en chantant la Brabançonne en breton. Hein. Un gnostique, pour lui, si Jésus a fait ça, c'est un salaud, quoi. Parce que si vous avez un rapport sexuel, vous risquez d'avoir un enfant, et donc vous mettez une âme dans la prison du corps. Et donc les gnostiques étaient contre la reproduction, donc pour un gnostique, Jésus ne pouvait pas être l'amant de Marie-Madeleine. Donc déjà, ils sont squeezés rien que sur ce plan-là. Alors tout est absolument le même. Et alors, justement, le don d'intelligence fait que, ben, si vous voulez, on sent que ça ne va pas, quoi. En étudiant un tout petit peu, ou en approfondissant un petit peu, on voit, si vous voulez, le don science fait que on se rend compte qu'il ne faut pas s'écarter de l'adhésion intérieure de la foi à cause de ce qu'on voit extérieurement. Mais évidemment, c'est quelque chose de fort, parce que ce qu'on voit extérieurement, ça peut être l'échec, ça peut être la maladie, ça peut être la mort, ça peut être le goulag. Hein. Le pape l'a dit quand il a été reçu, je suis en l'attendant au tournant, il a fait un très beau discours, comme on pouvait s'y attendre, il a cité les paroles du psaume, hein. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Moi, je connais des gars qui ont perdu la foi parce qu'ils ont été dans ces camps. Et évidemment, vous êtes devant un truc tellement horrible, mais justement, le don d'intelligence permet que, par contre, d'autres l'ont retrouvé, comme Solénitine l'a retrouvé. La foi de son enfance, ou retrouver la foi tout court, à l'infirmerie où il était dans un des camps du goulag où il a été à cause du don d'intelligence qui lui a fait sentir que Dieu était une réalité plus forte que celle des persécuteurs. Et c'est une réalité, ça aussi. Parce que comment se fait-il que les chrétiens arrivent à témoigner de Dieu contre un monde visible qui semble pas très favorable à Dieu, c'est le moins qu'on puisse dire. Ben, c'est parce qu'ils ont don d'intelligence. Alors d'autre part, tout ce qui dans l'évangile est dans la vie chrétienne est ordonné au mystère, c'est redonné à la Trinité l'incarnation, et eh bien par le don d'intelligence, on va sentir que c'est vraiment rapporté à ça. Par exemple, je pense aux miracles, oui. Les miracles, moi je suis pour, hein. Mais pas trop. C'est un cheveu qu'il faut qu'il y en a, mais il faut pas. C'est moins important que la Trinité et l'incarnation. Et quand on baigne vraiment dans le catholicisme, c'est un miracle, ben, un miracle, tant mieux, ça peut être des gens à croire, mais on ne va pas courir après ou imaginer que le christianisme c'est essentiellement des miracles, ou essentiellement des potions magiques, vous voyez. C'est drôle, parce que pour beaucoup de gens, c'est ça. L'autre jour, j'étais dans un restaurant, enfin, on m'invitait, parce que c'est le journal qu'on m'offrait le pot, quoi. Et alors, il y avait une dame qui me dit, ben, qui me parle, bon, c'était une musulmane, en fait, elle me dit, mais, et alors, est-ce que la rue du Bac, c'est bien, est-ce que ça guérit, et tout ça? Est-ce qu'à la rue du Bac, on guérit? Alors je lui ai demandé un peu ce qu'elle était, elle m'a dit qu'elle était musulmane, et elle s'imaginait, si vous voulez, que bon, les chrétiens, les rues du Bac, c'est un peu vrai, les rues du Bac pourraient être guéries d'un cancer ou tout, mais je lui ai dit, vous savez, dans le christianisme, le but essentiel, c'est pas la guérison physique, enfin, la religion n'est pas essentiellement ordonnée au bien-être corporel, ou à la réussite temporelle. Si le pain quotidien est nécessaire, on le demande, et on l'a, on a ce qu'il faut, quoi. Mais c'est secondaire par rapport à la Trinité, à l'incarnation, vous voyez. Je suis très frappé de ça, parce que je crois qu'en islam et en judaïsme, le judaïsme tel qu'il est vécu actuellement, pour parler des juifs qui ont refusé le Christ, si vous voulez, l'aspect quand même par lequel la religion est un adjuvant temporel est beaucoup plus fort. C'est pour ça que la mort, et en particulier la Shoah, est quelque chose d'absolument incompréhensible. Et qui refuse que le Christ dise, que Benoît XVI dise, le seul éclairage possible devant ce mystère, c'est la croix du Christ qui l'a racheté. Comme Edith Stein, qui est mort justement dans un camp de concentration, avait elle-même vu, elle s'était offerte en holocauste pour le salut des juifs, ce qui était son peuple, parce qu'elle était juive. Et elle a été justement convertie, Edith Stein, par l'attitude de son amie Edith Reinhardt, qui était la femme d'un grand philosophe, un des disciples de Husserl comme elle, et qui est mort pendant la guerre de 14, et quand elle a vu, elle n'était pas croyante du tout, quand elle a vu l'attitude d'Edith, son amie, à la mort de son mari, et elle a dit, c'est mon premier contact avec la croix, et la croix qui est rentrée dans ma vie à ce moment-là n'en est jamais sortie. Et pour elle, le Christ l'a atteint par la forme de la croix. Elle s'est dit, si cette femme est rayonnante alors qu'elle vient de perdre son mari, c'est que le christianisme est un truc particulier. Et donc, le pape a eu raison de dire, seule la croix du Christ peut éclairer, enfin si on veut, doit être mise en face du mystère de l'indicible, de l'horreur, etc. Et donc, alors, j'ai frappé de ça, c'est que dans d'autres religions, vous voyez, même chez les, par exemple, tout l'argumentation de Saint-Augustin dans la Cité de Dieu, il argumente beaucoup contre les païens qui disent, voilà, Rome est envahie par les barbares, parce qu'on ne fait plus les sacrifices aux dieux de la cité qui ont été interdits par les empereurs chrétiens. Et lui montre qu'en fait, la prospérité de Rome n'est pas venue des dieux cultivés par les païens. Et c'est magnifique. Et alors, toute son argumentation consiste à dire qu'une religion qui a pour but essentiellement les biens temporels ne peut pas être la vraie religion. Parce que un coup ça marche, un coup ça marche pas, et il n'a pas de mal à le montrer avec l'histoire de Rome. Donc c'est très, très intéressant. Ça. Pour les juifs, j'avais une autre anecdote, j'avais été soigné par un spécialiste tout à fait remarquable, un juif, et à la fin je lui avais offert il m'avait soigné à l'œil, hein. Donc pour un juif c'est pas mal quoi. Et je lui avais offert un bouquin de Jean-Paul II, Entrer dans l'espérance. Alors, il m'avait remercié, et c'est un type de haut niveau, hein, qui fait de la recherche scientifique et tout, et il m'a dit ceci, ça m'a vraiment resté dans la tête. Mais oui, mon père, oui c'est vrai, je vous remercie, c'est intéressant, parce que, vous savez, chez nous, hein, il est un juif d'origine tunisienne, c'est un pied noir. Il dit chez nous, on dit voilà, quand tu te mets à table, il faut que tu aies un médecin et un rabbin. Un rabbin pour bénir la table et un médecin pour si jamais tu attrapes une indigestion. Ou si jamais tu t'étrangles, il faut que tu aies un médecin pour te soigner. Alors vous voyez, c'était assez marrant parce que pour lui, le médecin, le rabbin, il semblait être même sur le même plan. C'est que là, du moins, l'anecdote qu'il me donnait, c'était une conception de la religion. Ben, moi, c'est bien d'avoir Dieu qui en plus nous aide pour la vie temporelle. Bon. Ben, je vous avais raconté l'histoire aussi de ces protestants qui m'avaient pris en stop, là. Et on avait un peu discuté, je franchissais un col dans les Alpes, je me souviens, c'était en été, ben, c'était très sympa les types. Il dit, ah ben oui, ben, la religion, c'est utile quand on est malade. C'est des gens du Valais, de la citation de Saint-Dame, comme ça. Hein. Et c'est utile quand on est malade, la religion. Je dis, mais c'est vrai, mais j'avais jamais pensé, moi. Mais alors, c'est utile quand on est malade, c'est vrai, mais je veux dire, attendez, ouais, d'accord, mais c'est d'abord vrai, enfin, quand même, j'espère, parce que, si c'est simplement un effet placebo, vous voyez, hein, que le gars qui est à la foi, en fait Dieu n'existe pas et tout le monde va dans le néant. Là, mais celui qui croit en Dieu, ben, il est plus cool pendant les 90 ans de sa vie. Ben, à ce moment-là, moi je préfère être anarchiste. Quoi. Franchement, enfin, quand j'étais adolescent, je préférais. Je fais tout péter, si c'est ça, si tout est absurde, pourquoi faire le crétin et être un béni oui-oui avec les bourgeois, les cathos, les matins, si c'est pas vrai. On s'en fout, il faut faire tout péter pour se marrer un peu pendant le temps qui reste. Quoi. Non mais enfin, franchement, c'était incroyable, j'aimais les mains. Et la vérité, ça compte ou pas là-dedans? Mais oui, ça compte un peu. Alors c'est vrai, ça aide aussi quand on est malade, mais c'est pas le but essentiel. Quoi. Donc vous voyez, le miracle est essentiellement en rapport avec la vérité. Saint Thomas l'explique très bien, le but essentiel du miracle, c'est la vérité. Même quand il y a un miracle de puissance, c'est pour témoigner du fait que Dieu est puissant. Quand il y a un miracle de bonté, c'est pour témoigner qu'il est bon. Quand il y a etc. Quand Saint Paul faisait un miracle, c'est pour dire « Je suis l'envoyé du Christ qui lui-même est l'envoyé de Dieu. » Mais le but, c'est la vérité. C'est que l'esprit de l'homme s'unisse à Dieu qui est vérité. Et donc, il est possible qu'il y ait des miracles, parce que Saint Thomas dit très justement « Toutes les modifications qu'il y a dans le monde, toutes les lois, tous les changements, sont ordonnés tous à l'âme de l'homme. » C'est magnifique, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le monde sensible est ordonné à l'esprit humain. Bon, ça, nous le savons, nous, philosophes, nous le savons, nous, chrétiens. Mais il semble que certains scientifiques arrivent presque à ça en disant c'est vraiment incroyable, le monde a été calculé pour que, semble-t-il, qu'il soit suffisamment précis pour qu'on puisse arriver à la synthèse d'éléments suffisamment lourds et que la vie puisse naître et qu'un esprit puisse s'incarner dans la matière. Et de fait, c'est ça. Alors, si le monde entier culmine, si vous voulez, est ordonné à l'homme, qu'y a-t-il d'étonnant que Dieu suspende parfois les lois ou le fonctionnement du monde en faveur de la vérité pour l'esprit de l'homme? C'est pas tellement étonnant. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Dieu existe, je vais vous dire. Si Dieu existe, il peut très bien écarter la flotte à droite et à gauche pour que vous passiez dans la mer rouge, poursuivi par le pharaon, et qu'après, la flotte tombe. Pharaon prend le glou glou glou. Il prend la. Voilà. Bon, c'est pas très gentil pour Pharaon, mais c'est quand même pour les juifs, quand même. Mais c'est pas très difficile, si vous voulez. Si Dieu existe, enfin, si le Christ est Dieu, franchement, les miracles qu'on lit dans l'évangile, moi je trouve que c'est sympa, il y a des miracles, voilà. Ah ben, il y a un truc. Eh merde, il y a un miracle. Non mais attendez, on a mal lu, il n'y a pas de miracle. Il y a pas de problème. Alors, vous coupez tout, vous avez tous les miracles de l'évangile, ben, c'est vous qui avez fabriqué votre évangile, quoi. La résurrection, la résurrection, alors là, c'est vraiment un truc. C'est une impression, ben, ils ont vu, ils se sont dit, ils sont relus, alors, la communauté croyante, ils n'ont pas dit ça, ils voulaient pas croire, ils ont mis leurs mains là, leurs doigts, leurs mains. C'est physique, c'est sensible le christianisme, c'est pas un espèce de truc pour une société de malades mentaux, débiles, avec l'amour gélatineux à la clé là, c'est pas du tout ça. C'est des mecs qui étaient des pêcheurs, des patrons pêcheurs, des mecs qui avaient les pieds sur terre, hein, qui disaient qu'est-ce que j'aurais quand vous aurez gagné, est-ce que je serais ministre des Finances au milieu. C'était, et Jésus les a convaincus de prêcher une religion spirituelle, on n'avait rien à gagner, et on mourrait martyr des autres. Là. C'est ça le christianisme, c'est pas un truc pour des mecs évaporés. Enfin, il y a aussi des mecs évaporés, mais il y en a à peu près partout. Hein. C'est isotrope. Hein. Les fous, répartition isotrope, à peu près. Ça veut dire. Il y a les même densité moyenne de fous dans tous les groupes. Il y a peut-être des variations locales, mais ça, je vous laisse le soin de les lire. Donc, en fait, si vous voulez, on voit les choses dans le rapport au mystère. Je suis très frappé de ça. En fait, je crois que la progression dans la vie chrétienne, c'est tout ramener à l'essentiel. C'est-à-dire la Trinité et l'incarnation. Et plus on avance dans la vie chrétienne, bah, plus je me dis, bah, c'est formidable. Tantôt, je me dis, bah, on a de la chance que Dieu existe, quand même. C'est vrai, non ? Puis qu'il soit Trinité. Parce que le Père peut parler au Fils et au Saint-Esprit. Donc, il y a une famille. On a de la chance que le fond du réel, ce soit une famille, quoi. Alors, si vous voulez, enfin, une famille, c'est pas une bonne image, mais ben, un esprit, quoi, qui pense, qui, voilà, c'est un reflet, la famille. Bon. Mais on a une chance inouïe. Et une chance que Dieu, que ce Dieu, cet homme de 30 ans qui a fait des trucs assez modérés pendant 30 ans, 33 ans, mais ses paroles ont résonné dans l'infini, parce qu'il est Dieu. Il a fait un seul discours sur la montagne, il a fait un seul sermon après la scène, ben, on prend les liens jusqu'à la fin des temps, et on rentre en contemplation en lisant des trucs pareils. Surtout pendant la liturgie. La liturgie aide beaucoup, la vraie liturgie aide vraiment, nous porte au cœur de la contemplation. Et je crois que si justement les gens sont si peu contemplatifs, c'est que souvent nos liturgies ne le sont pas. Et que la réforme liturgique, à mon avis, est un peu foireuse de ce point de vue-là. Elle porte pas suffisamment, elle tient pas suffisamment compte à la dimension contemplative de la vie chrétienne. Mais c'est vrai qu'un texte comme ça, des textes du Christ, lus, vraiment, moi je m'aperçois que prêcher dans une messe, c'est beaucoup plus facile que prêcher en dehors d'une messe. Pourquoi ? Parce que vous avez le sacrifice du Christ et vous avez les gens qui sont baptisés et qui vont communier, quoi. Donc vous êtes dans un... Et le Christ est présent. Alors vous voyez, ça nous ramène à l'essentiel. Ça fait qu'on est dans le rapport au mystère. Et puis les passages de l'Écriture nous rentrent dans le cœur, quoi. Vous avez une très belle élévation de Bossuet sur le passage de Saint Jean, au chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son propre Fils afin que... ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Et ça, c'est extraordinaire comme passage quand on y pense. Et Bossuet qui écrivait bien le français, hein, ses œuvres ont été éditées, vous pouvez les lire. Un très très beau passage, Dieu a tant aimé, Dieu a tant aimé. C'est vrai que le fait que Dieu donne son Fils, bon, ça peut nous pénétrer, vous voyez, grâce au don d'intelligence. Et puis alors, ça va rayonner aussi sur la pratique de la vie chrétienne. C'est-à-dire que, si vous voulez, si nous vivons des réalités de la foi, si ces réalités de la foi, nous les vivons de façon, je dirais, sympathique, c'est le terme exact. Hein, Saint-Denis l'Areopagite dit que le contemplatif chrétien est quelqu'un qui n'apprend pas seulement, mais qui souffre les choses de Dieu. Mais moi, récemment, j'ai vu un prêtre, un vieux prêtre qui a fêté ses 60 ans de sacerdoce et qui était malade à cause du Da Vinci Code, quoi. Il était malade parce qu'il dit, moi, quand je pense au Christ, et on peut dire des choses comme ça sur lui, ça le rendait malade physiquement. C'est merveilleux, quoi. Parce qu'il était tellement touché, il aimait tellement le Christ qu'il trouvait invraisemblable qu'on dise des trucs faux. Et honteux, enfin même indigne, quoi. Donc c'est vrai qu'il souffrait ces choses-là comme contemplatif, quoi. Et donc, nous parlons du Saint-Esprit, si vous voulez, quand on vit les choses de la religion avec une certaine connaturalité, et bien après ça va rejaillir dans la pratique de notre vie chrétienne, et ça va lui donner un axe tout à fait plein de respiration, vous voyez. Moi c'est ce que j'essaie de faire passer dans les retraites. C'est le fait que la vie chrétienne, elle a du souffle, si vous voulez. C'est extraordinaire, il y a un arrière-plan extraordinaire, il y a Dieu qui a créé le monde, il y a la béatitude au bout, il y a l'enfer aussi qu'il faut éviter, mais il y a la croix du Christ, il y a le sacrifice, il y a la messe, il y a la liturgie, il y a les dons du Saint-Esprit, il y a l'amitié avec ceux qui ont la grâce, il y a l'amour pour ceux qui ne l'ont pas, c'est génial, qu'est-ce qui manque ? Il y a tout, quoi. Évidemment, on en bave un peu entre les deux, quoi. Entre la naissance et la mort, mais même ça, c'est beau, parce que dans une vie sans effort. Celui qui ne souffre pas, qu'est-ce qu'il sait? C'est ce que dit la sagesse des... Bon, et bien, même cette souffrance-là, elle devient, si vous voulez, elle devient grande, quoi. Vous voyez ce que disait le père qui nous a prêché pour nos 25 ans de profession religieuse? On a eu un vieux père qui, lui, fêtait ses 75 ans ce jour-là. Et il nous a prêché, il est sur la vie religieuse et notre fondation. Et il aimait dire dans ses retraites, il aime dire, la souffrance, tout le monde en a, l'essentiel, c'est qu'elle devienne lumineuse. Lumineuse de l'intérieur. Et moi, vous en avez vu des gens comme ça, des grands-mères sur leur lit de mort, qui sont lumineuses, quoi. Et qui éclairent, parce que la souffrance, elle fait partie de la vie humaine. Mais celui qui la vit dans la croix, et celui qui la vit surtout dans cette perspective du mystère du Christ et de la Trinité, il y a plus de bien que de mal. Parce que si on va au ciel, ça fera une éternité de ciel, si vous voulez, avec 90 ans de vie terrestre. Et puis la masse de charité est plus forte que la masse de mal. Parce que la masse de mal, plus il y a de gens qui vont en enfer, moins ils peuvent faire de mal. Une fois en enfer, ils sont bouclés, quoi. Normalement, ils ne reviennent pas. Il y a le démon qui s'agite, d'accord. Il y a pas mal de démons partout. Surtout, il est assez en... Comme on a diminué les exorcismes et... Malheureusement, donc il a une certaine... C'est vrai que le satanisme se répand. Mais quand même, le démon, il est comique, quoi. Si vous lui envoyez de l'eau bénite ou si vous faites un exorcisme, il rentre dans sa niche. Enfin, moi, je l'ai fait et ça marche comme ça. Bon, c'est un peu impressionnant, évidemment. Mais c'est pas tellement étonnant qu'il y ait un démon. Moi, ça m'étonne pas tellement qu'il y ait un démon, il suffit de voir les humains, quoi. Quand vous regardez les gens dans les yeux et que vous les connaissez, parce que moi, ça fait 29 ans que je confesse, donc je connais les hommes, un peu. Et ben, qu'il y ait des démons, ben... Évidemment, le démon, c'est un concentré de mal assez impressionnant. Hein? Mais des trucs démoniaques, il y en a. La malice, il faut vraiment être complètement cuvénie pour penser qu'il n'y a pas de gens méchants. Hein? Il y a des cathos qui sont comme ça, qui imaginent que tout le monde est comme eux, hein? Cool, on s'aime, frère, Jésus t'aime, voilà. Bon, ben, d'accord, mais il y a des gens méchants. Hein? Méchants parce qu'ils se sont donnés au diable ou parce qu'ils vous haïssent, et tout. Et parce que, voilà, mais par rapport à Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le mal, en fait, c'est banal. Hein? C'est banal, enfin c'est terrible, certainement c'est terrible, mais par rapport à Dieu, par rapport à la Trinité, par rapport au fait que le bien renverse le mal, c'est quand même extraordinaire. Le christianisme, c'est ça. C'est l'histoire de la grâce de Dieu sur les attaques du démon, et à la fin du temps, il sera renfermé dans l'enfer, il y aura un saut, il n'y aura plus de temps, c'est ce que marquera l'ange, tempus tonaritam plius, il y aura l'enfer. Si vous voulez savoir comment c'est, lisez le premier chant de la Divine Comédie de Dante, c'est un texte magnifique. Un peu imagé, c'est sûr, mais enfin, c'est très parlant. Ou bien la vision de Lucie à Fatima. Et donc là, voilà, crac. Mais il y aura le bien et le ciel. Et les gens qui veulent y aller, peuvent y aller. Et nous, avec la grâce de Dieu, on peut y amener les gens. Et donc, c'est vrai, quand on contemple un peu les grandes vérités, c'est sûr que notre vie, ça lui donne un allant absolument extraordinaire. Et ça nous aide à porter les choses, si vous voulez, bon, en relativisant un peu nos petits ennuis. Parce que si on sort du baptême, si vous êtes baptisé, on sort de la Trinité, on va voir la vision béatifique, on va rentrer dans la Trinité... On va y attirer le maximum de gens, c'est quand même une perspective absolument extraordinaire. Et les choses du temps, vous voyez, donc aujourd'hui on fera seulement cette page-là, parce qu'on parlera de la suite dans le sagesse après. Les choses du temps, vous voyez, revêtent un air d'éternité. Je suis assez frappé de ça. Dans l'art chrétien en particulier, et dans l'art chrétien, dans le mode de vie chrétien, je pense qu'on voit de façon presque sensible l'impact de l'éternité. Par exemple, sur les visages des Christos romans, byzantins, ou même dans l'art de la Renaissance, ou dans l'art qui vient du christianisme, même s'il a un peu perdu ses racines, il y a quelque chose d'humain. Et dans le christianisme, Dieu est humain. Alors que dans les grands visages, si vous voulez, même dans le visage de Sakyamuni, dans l'Extrême-Orient, vous voyez les Bouddhas. Les Bouddhas sont impressionnants, mais les Bodhisattvas, enfin les hommes illuminés, qui sont arrivés à la libération, mais ils ne sont plus humains. Parce que justement, ils sont séparés de l'illusion qui consiste à croire que l'homme est important. C'est ça la libération bouddhique, hein. Attention, hein. Faut pas se tromper. Et même dans l'art égyptien, tout ça, il y a quelque chose de très impressionnant. Dans l'art grec, c'est touchant parce que c'est l'apex de la beauté humaine, mais ça meurt, vous voyez. Quand le type n'a plus de 30 ans, il est plus à l'acmé, si vous voulez, c'est plus l'athlète dans la force de sa vie, après il va pourrir inéluctablement, et c'est fini. Et c'est fini. Parce que pour le grec, la perfection dans la forme, et comme l'immortalité de l'âme, beaucoup n'y croyaient pas, enfin pour Platon c'était un beau risque. Donc vous voyez la tristesse, en fait une magnifique statue grecque, vous voyez cette perfection extraordinaire dans le disco bolt. Moi j'étais un grand amoureux de la date, quand j'avais votre âge, ou même plus jeune, j'avais 17 ans, j'étais en stop. Donc c'était un peu une aventure, parce que j'étais vraiment très fasciné. Mais alors, après coup, à ce moment-là, j'étais agnostique. Mais cette beauté extraordinaire, mais si ça meurt, oui. Il y a une tristesse, en fait. Quelqu'un vous a remarqué récemment, on écoute des... Quand il y a peu de monde au réfectoire, comme tout le monde était au Pélé-Tchart, là, moi j'étais... Je gardais le courant, et donc j'y étais pas, et on écoutait une conférence de Marcel Clément sur l'histoire. Et c'est un très grand conférencier, et il explique qu'au fond, le grec est triste. L'helléniste, qui est une chose fascinante, hein. Un langage sonore aux douceurs souveraines, le plus beau qui soit né sur des lèvres humaines. C'est ce que Chénier disait du grec. Et c'est vrai que c'est une langue absolument fascinante. C'était. Et Clément dit, les Grecs ont tout inventé. C'est-à-dire, on dit que, en tout cas, c'est eux qui ont inventé cette formule, l'homme est une intelligence qui a des mains. Enfin, les Grecs ont inventé le logos, quoi. C'est eux qui ont inventé aussi la démocratie dans la mesure où elle est bonne. C'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais enfin, quand même, c'est peut-être mieux que la tyrannie. Enfin, la démocratie, c'est 10 000 types, hein, donc. Mais donc, ils ont inventé des tas de choses. Et bien, ces gens-là, c'est triste, finalement. Parce que si vous n'avez pas là, c'est ce que saint Thomas avait bien vu dans la Somme contre les gentils, ces esprits sublimes ont traversé d'énormes souffrances parce qu'ils se rendaient compte que la béatitude de l'homme, qui est dans la contemplation, ne peut pas être atteinte ici-bas, est toujours perturbée par la vie d'aujourd'hui qui est toujours menacée, agitée par les perturbations de la vie, et surtout qu'elle s'arrête à la mort. Et ne sachant pas, n'étant pas sûr de l'éternité de l'âme, eh bien, ils ont souffert de grandes angoisses, Platon, Aristote et d'autres génies. Ce qui fait que, vous voyez, même la stature grecque, ça vraiment, c'est comme la rose de Ronsard. C'est quelque chose de très bouleversant, parce que ça meurt. Et justement, je crois que les Grecs ont peut-être donné ça au monde, de faire comprendre que la perfection formelle dont ils ont été les champions, si vous voulez, si elle n'est pas sous-tendue par une forme invisible qui dure, ça, Platon l'avait un petit peu senti. S'il n'y a pas quelque chose de spirituel derrière le corporel, eh bien, l'homme est une belle absurdité. Une belle quand on habite en Grèce, parce que c'est un très beau pays, mais c'est une belle absurdité. Mais le christianisme a sauvé ce qu'il y a de bon dans l'hellénisme. C'est-à-dire que par Platon, par saint Augustin, justement, qui était un maître spirituel du pape, le christianisme a récupéré, disons, cette grande admiration des Grecs pour la pensée, pour l'intelligence, et lui a donné une perspective éternelle. Et donc, lisez saint Augustin, enfin, lisez les Confessions, hein, c'est un livre qu'on peut lire facilement, qui est très d'actualité. Et là, vous aurez le meilleur du platonisme christianisé. En tout cas, voilà, ça vous donne un petit aperçu sur le travail que peut faire le don d'intelligence dans notre âme pour nous mettre, si vous voulez, je crois, à juste distance entre l'exaltation spiritualiste et puis la matérialisation des choses. Même dans la vie spirituelle, il pourrait y avoir une tendance à se bloquer trop sur les observances, sur les pratiques, sur les dévotions, ou au contraire, une tendance à s'évanouir un petit peu dans le couillettisme, si vous voulez, où on ne fait rien. Et je crois que le don d'intelligence nous donne la mesure juste. Moi, je suis frappé dans la vie religieuse, c'est celle que je mène, on a beaucoup d'exercices de type monastique, donc qui sont physiques, hein, qui sont des présences au cœur, des inclinations, des pénitences, pas des choses terribles, mais comme c'est physique, la cure au réfectoire, et puis la liturgie. Et c'est vrai que c'est très porteur. C'est là, je crois qu'il y a un juste équilibre, sous l'influx du don d'intelligence, entre l'élément, si vous voulez, de l'observance, au nom de la rigueur, on tâche de rendre un service à Dieu, on est les... tâche d'être une assemblée d'honneur, si vous voulez, une cour pour Dieu quand on fait la divine liturgie, ou même pour toute notre vie, quoi. On est un peu des serviteurs de Dieu, même visiblement. C'est vrai que le fait que les gens me parlent dans la rue parce que je suis en habit, je trouve que c'est, qu'ils soient chrétiens ou pas, je trouve que c'est assez sympa, parce que j'en dis, tiens, bah, c'est la marque que Dieu n'a pas complètement disparu de nos sociétés, quoi. Mais c'est vrai que c'est que aussi quand il fait chaud, ça peut être une pénitence. Enfin, c'est moins chaud qu'à Beyrouth, quoi. Donc c'est quand même supportable, mais... Voilà, bien, donc il y a un juste milieu entre ça et puis le fait de rien faire. Aujourd'hui, je crois qu'on a trop tendance à rien faire. Je crois qu'il faut retrouver quand même, en particulier, je pense, la dimension de la liturgie. Moi, je suis un fervent partisan des rites anciens, qu'ils soient maronites, byzantins, arméniens ou latins. Je pense que ces rites, si vous voulez, avec une bonne pastorale, hein, une bonne catéchèse, bien sûr, véhiculent des richesses qui sont tout à fait actuelles et qui peuvent nous ouvrir les portes de la contemplation. Je pense que très souvent, pour beaucoup de personnes, c'est quelquefois la lecture, quelquefois des sermons, une amitié, mais très souvent une grande souffrance, ça peut être ça aussi, l'hôpital avec des grandes journées. Mais c'est rare que la liturgie ne joue aucun rôle, si vous voulez, dans un démarrage contemplatif d'une vie chrétienne. Et ça, je pense qu'il faut le demander, demandez-le à Dieu, vous voyez. Parce que si vous avancez pas, là, vous reculerez. Et si vous reculez, il y a des chances que vous perdiez la foi. Ou que vous soyez très médiocre, et alors vous allez vous taper 100 000 ans de purgatoire. Pour parler en termes un peu direct. Or, il faut désirer aller au ciel juste après sa mort. Donc, si vous voulez, il faut que votre vie chrétienne, vous désiriez devenir plus contemplatif que ce que vous êtes, ce qui n'est pas difficile, j'imagine. Donc, il y a peut-être plus de liturgie, plus d'oraison dans votre vie, plus de lecture. Maintenant, il y a très bons livres de lecture spirituelle. Et je pense que de retraite, enfin, prenez quelques moyens, je pense que vous ne le regretterez pas, parce que ça donne, je crois, une très très belle aération intérieure à notre vie. Alors, on tâchera de compléter ça la prochaine fois avec le don de sagesse. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention.
Maintenant, je vous invite à utiliser ce don d'intelligence et à poser vos questions.
Ça dépend des canons, je crois. Ça dépend des annonces, des canons.
D'accord. Parce que ma question, c'est que quand tu vois, par contre, dans les modes de vie, dans les chrétiens qui vont être toxiques, souvent les chrétiens sont souvent très invoqués.
Oui.
Est-ce que c'est pas une convocation?
Mais je pense, ta question est de savoir la place de l'invocation Saint-Esprit dans les différentes liturgies latines. Chez les orientaux, c'est extrêmement important, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'épiclèse, qui est une invocation Saint-Esprit après les paroles du récit de la consécration, pour que le Saint-Esprit opère la transsubstantiation. C'est assez paradoxal, parce que c'est après, mais dans la liturgie, ça va. Et donc, ils insistent beaucoup sur le rôle du Saint-Esprit. Ils disent, c'est l'opération du Saint-Esprit, leur saint Thomas le dit aussi, qui va changer le pain dans le corps du Christ et le vin dans le sang du Christ. Et chez les latins, c'est plus discret. Il y a, dans la formule de l'offertoire romain, mais pas le dominicain, il y a une invocation au Saint-Esprit, et également dans le canon romain, donc qu'on dit aussi nous les dominicains, il y a une invocation un peu indirecte. Enfin, au moment où on s'incline, on dit « Supplicet rogamus », donc on prie Dieu de faire monter les oblats, enfin l'offrande, jusqu'à l'autel céleste. C'est-à-dire qu'on prie Dieu que ce qui se passe ici dans l'Église soit porté jusqu'au ciel pour que Dieu, dans sa Trinité, si vous voulez, agrée l'offrande du Christ. Et ça, c'est donc une invocation au Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'amour et c'est le Saint-Esprit qui marque le fait que le sacrifice du Christ est agréé. Alors, la Pentecôte, là, actuellement, on est en temps de la Pentecôte, c'est un peu comme le feu qui tombe sur l'Holocauste. Dans l'Ancien Testament, il y avait un sacrifice et quelquefois le feu tombait dessus pour montrer que Dieu l'avait agréé. Et bien, la Pentecôte, c'est l'envoi du Saint-Esprit pour montrer que Dieu a effectivement pris le Christ ressuscité à sa droite et l'envoie le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a un rôle très important dans la sanctification, parce qu'il est un peu l'ambiance dans laquelle on sanctifie, vous voyez. La grande formule liturgique et patristique, c'est de dire, on vit dans l'Esprit, par le Christ, vers le Père. Donc c'est toute la Trinité, dans l'Esprit, c'est-à-dire qu'on est avec la charité, on est dans les dons du Saint-Esprit, notre vie doit être dans une intimité le plus forte possible avec le Saint-Esprit, qui est l'amour, mais par le Christ, parce que le Christ donne la vérité qui seul... Enfin, le Saint-Esprit nous permet de mieux approfondir la vérité que le Christ apporte dans l'Évangile. Parce que quand on aime, on comprend mieux. Oui. Et dans la communion byzantine, après la communion, on chante « Nous avons reçu la vraie lumière ». Donc en communiant au Saint-Don, on reçoit la vérité. Donc c'est extrêmement impressionnant. Et le Saint-Esprit nous fait aller plus loin dans la vérité, mais le rôle de l'amour, c'est impossible s'il n'y avait pas le message du Christ dans l'Évangile. Et cet amour nous conduit à plus de vérité. Ça, c'est la grande spiritualité de Sainte Catherine de Sienne. Celui qui aime cherche à connaître, et plus il connaît, plus il aime. Enfin, quand on aime quelqu'un, on cherche à le connaître. Et plus on découvre ses qualités, plus on l'aime. Et le must, c'est d'aimer en ayant découvert ses défauts. On aime vraiment quand on a été déçu. Alors, dites-vous bien ça, parce que c'est un prêtre oriental marié qui disait ça à un jeune qui cherchait à savoir un peu ce que c'était que l'amour. Il dit, tu sais, on aime vraiment lorsqu'on aime après une déception. C'est un peu vrai. Parce qu'on découvre que c'est vraiment la personne qu'on doit aimer, et pas simplement le côté gratifiant ou les qualités qu'on avait appréciées, qui sont aussi ce qu'on aime en elle. Mais tu sais, l'amour va plus loin que les qualités. Il va vers la personne, et donc même si elle a un cancer, ou même si elle devient insupportable, si on lui avoue l'amour, on lui garde. Donc vous voyez, donc, l'amour nous conduit à la vérité, mais c'est une vérité quand même. Vous voyez, le Christ, c'est un message aussi, c'est une vérité qui s'adresse à notre intelligence. Mais comme cette vérité dépasse notre intelligence, on a besoin des dons du Saint-Esprit, et c'est vrai que même en récitant le credo, même en lisant tous les pères de l'Église, et tout saint Thomas d'Aquin, je comprendrai de mieux en mieux que Dieu dépasse tout ce que je peux dire et écrire. C'est ça le suprême, si vous voulez, de l'intelligence théologique, c'est de découvrir que Dieu, saint Thomas le dit explicitement 3 ou 4 fois, à la suite de Denis l'Aréopagite, un auteur syrien du 5e siècle, hein, que Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut en dire, écrire ou penser. Mais ça, c'est aussi une vérité. Et quand vous dites ça, si vous voulez, quand vous dites Dieu est au-delà de tout ce que je peux dire sur lui, mais que vous avez beaucoup réfléchi sur Dieu, ben, votre amour pour Dieu est beaucoup plus fort, vous savez beaucoup plus de choses. Ce n'est pas un silence végétatif, si vous voulez. C'est parce que vous savez que Dieu est celui qui a fait la multiplication des pains, la résurrection, etc. Mais que tout ça, il est encore mieux que ce qu'il a pu exprimer. Mais ça nous conduit en définitive vers le Père, par le Fils, parce que tout doit passer par le Christ. On ne peut pas être sauvé en dehors de lui. Et ça nous conduit vers le Père, qui est le principe de la monarchie trinitaire, le principe sans principe, la source de toute chose, et celui vers lequel nous devons revenir pour reposer dans le sein du Père comme le Christ. J'entends en moi une eau qui murmure, viens vers le Père, c'est ce que disait Ignace d'Antioche, allant mourir dans le cirque à Rome. On voulait l'empêcher de libérer, il disait non, laissez-moi, je veux mourir pour être avec le Christ, car c'est là que je serai vraiment un homme, laissez-moi aller vers lui, aller vers le Père, car j'entends en moi une eau qui murmure, viens vers le Père. L'eau du baptême qui nous dit d'aller vers le Père. Oui. Donc si vous voulez, quand on va au ciel, on va dans notre patrie, quoi. C'est que la vie chrétienne, c'est pas quelque chose qui nous fait. On sort évidemment de certaines choses, mais on sort surtout du péché. Parce qu'on rentre dans le réel, et on rentre dans ce qu'on a toujours désiré. Oui. Enfin, tous les convertis vous le diront. Quand vous par exemple, Maritain, quand il est revenu, quand il est rentré, il a été baptisé dans l'église catholique avec sa femme, par Léon Blois, justement, donc, qui les a très touchés, et donc il a demandé le baptême. Et là, tout ce qu'il avait pressenti de vrai, il a trouvé dans la philo, beaucoup mieux dans saint Thomas. Et dans toute l'église, il a retrouvé tout ce qu'il y a de juste, de vrai, de préparation évangélique, même dans le confucianisme pour les Chinois qui se convertissent, vous trouvez un degré éminent à l'intérieur du message chrétien, du moins chez les chrétiens qui vivent leur christianisme. Donc vous voyez, en fait, vous allez vers le Père. C'est-à-dire que vous ne reniez pas tout ce qu'il y a pu avoir de bon, même dans vos ancêtres qui n'ont pas été chrétiens, ou tout ce qui a été de juste, vous voyez, vous a conduit vers le Père. Donc, vous voyez, c'est une religion qui est vraiment... c'est pas une religion clanique, c'est pas une religion raciale, c'est pas une religion tribale, c'est pas une religion nationale ou politique, c'est vraiment la religion de la vérité. Donc, dans l'esprit, par le Fils, vers le Père. Thibault.
Compte tenu du fait que l'Ancien Testament parle de Dieu, le nouveau et la révélation, celle du Christ, c'est qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit, d'une certaine manière, prend le relais sur terre.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que la révélation s'arrête au Christ et qu'elle ne continuerait pas avec la révélation des révélations de l'Esprit, en fait?
Alors la question est de savoir si la révélation continue après le Christ. Ouais. Enfin, elle continue jusqu'à la mort de Saint-Jean.
Le catéchisme nous dit qu'elle s'arrête.
À la mort de Saint-Jean.
Pourquoi est-ce que justement l'Esprit n'aurait pas sa...
Ça c'est révélé, si vous voulez, c'est-à-dire que Dieu a préparé les gens par, d'une part, la révélation faite à Adam, ensuite, celle à Noé, c'est important aussi, après Abraham, les patriarches, et les prophètes, et jusqu'au Christ. Et après, il y a les apôtres qui sont au contact direct du Christ, jusqu'à la mort de Saint-Jean. Et les apôtres aussi, Saint-Jean a reçu des révélations. Mais à la mort de Saint-Jean, qui est le dernier apôtre, la révélation publique est terminée. Et ça, c'est dit explicitement, parce que une fois que, si vous voulez, que le message a été donné, le Saint-Esprit nous est envoyé par les dons du Saint-Esprit et aussi par le canal hiérarchique du magistère pour mieux comprendre ce que Christ a dit. Mais le Saint-Esprit, ce que le Christ lui-même a dit dans l'évangile de Saint-Jean, nous conduit à l'intérieur de la vérité tout entière. C'est-à-dire qu'il nous conduit à mieux comprendre l'évangile. Il ne nous donne pas une nouvelle révélation. Ben c'est la structure que Dieu a voulu, et au fond c'est quelque chose d'assez sage, parce que oui, le sermon sur la montagne, vous pouvez le relire 15 fois, vous trouverez toujours des nouvelles choses. Parce que le problème, c'est qu'est-ce qui va nous garantir, vous voyez, qu'il n'y aura pas encore quelque chose d'après. C'est parce que Mahomet dit, moi je suis celui, le sceau des prophètes, je suis le dernier des prophètes, et voilà. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aura pas quelqu'un après Mahomet? Bon, mais vous voyez, lui prétend que les chrétiens ont falsifié leurs écritures, et qu'ils ont changé l'évangile de Saint Jean, et que quand les chrétiens parlent du paraclet, du Saint-Esprit, en fait c'est Mohammed qui est annoncé, c'est lui. C'est lui, et c'est les chrétiens qui ont falsifié. Alors, on peut toujours dire ça, mais justement le gros problème de l'islam, c'est que l'islam refuse qu'on vérifie la crédibilité de ses sources. Alors le christianisme, c'est son public, vous pouvez aller voir les manuscrits de Qumran, apprenez le syriaque, apprenez l'hébreu, vérifiez tous les textes, tout ça c'est public. Et le christianisme, c'est un truc qui est annoncé depuis des milliers d'années, par des gens qui ont dit, voilà, ça va se passer comme ça, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a fait les miracles prévus, et qui a dit, je suis, il ne les a pas surpris, je suis celui qui a été annoncé, Saint Jean-Baptiste l'a prêché, le Christ l'a dit, et après moi c'est fini, je suis la voie, la vérité et la vie, je suis la porte. Et après, il n'y a plus rien. Il y a lui, il y a toujours lui qu'on approfondit. Mais justement, il nous a dit, si quelqu'un vient, et Saint Paul l'a dit, vous annoncez un autre évangile, c'est faux. Donc si vous voulez, même au point de vue épistémologique, il y a une cohérence dans la révélation chrétienne, elle est préparée par les prophéties, elle est vérifiée par les miracles, et ensuite, elle est belle dans la cohérence de la doctrine. C'est-à-dire que si vous faites le même examen pour les sources de l'islam, dans la mesure où vous pouvez le faire, vous apercevez qu'il n'est pas prophétisé, qu'il n'est pas vérifiable par les miracles, parce que précisément on ne peut pas, et la crédibilité ça ne les intéresse pas, le rapport à la raison, du moins pour la plupart des musulmans orthodoxes, et puis qu'ensuite, bon, la cohérence de la doctrine, moi je veux bien, mais elle n'est pas tout à fait évidente, hein, dans le Coran, entre les différentes dates des sourates qui sont certaines abroches d'autres, bon, c'est extrêmement compliqué. Et c'est ce qui explique qu'il y a des différentes nuances dans l'islam. Hein. Donc si vous voulez, même au regard de la raison, on a des arguments qui militent quand même en faveur de la cohérence épistémologique du christianisme. C'est-à-dire que si quelqu'un peut se dire, si Dieu parle, il est assez logique qu'il parle de façon à ce qu'on puisse vérifier qu'il a parlé. Et que donc, une fois qu'il a donné un texte, enfin il a donné plus qu'un texte, hein, parce que le Christ a parlé, les apôtres ont pris des notes et après ils ont mis par écrit. Bon. Mais il y a aussi d'autres choses qu'il a dit uniquement par oral. Et ensuite, comme il y a eu ce texte qui a été consigné, il faut qu'on ait quelqu'un qui nous dise, le pape, enfin les évêques en communion avec lui, quel est le sens si jamais il y a une discussion sur un passage ou l'autre. Et donc le fait d'avoir un magistère dans l'église catholique est une source importante pour la crédibilité du christianisme. Oui,
Vous avez dit que la foi, c'est une cohérence, on parle de crédibilité.
Il y a des crédibilités, la foi c'est autre chose que la crédibilité.
Et après, pour moi, la foi, c'est une démarche personnelle.
Oui, c'est vrai.
Et vous avez dit que la foi, c'est un don, une grâce.
Oui, c'est vrai.
Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, si on a l'envie, si on est à la recherche de la foi,
oui.
Est-ce qu'à votre avis, vous pensez que si on a la volonté de trouver la foi,
oui.
Est-ce qu'il y a la certitude qu'on va la trouver après?
Quasiment. Ben, si, la question est, si quelqu'un désire est en recherche, et bon, au fond, souhaite avoir la lumière sur la vérité religieuse. Est-ce qu'il est sûr qu'il la trouvera? Ben moi, je vais vous dire, c'est difficile de répondre absolument, parce que c'est le secret des cœurs, puis les choses peuvent être très longues aussi. Parce qu'il y a des va-et-vient, non?
Parce que parfois, j'ai l'impression que, on dit qu'on fait, si on fait un pas vers le Christ,
le Christ va... Oui, non, pas tout de suite, il nous laisse
pas
rôter.
Des pas et des pas,
oui. Ah oui, très très bonne question. Oui, le Christ, non, il répond pas comme ça. Ça, on marche dans le désert. La foi, c'est l'obscurité, c'est la nuit. Hein. Pour Saint Jean de la Croix, actuellement, je suis en train de relire Saint Jean de la Croix, pour vous montrer qu'il y a des trucs inépuisables. C'est moi la deuxième fois que je lis.
Mais je veux savoir.
Mais il dit pour lui, la foi, c'est la nuit. Est-ce qu'on va trouver? Oui, je pense. Écoutez, ça, c'est le chemin de chacun. Il n'y a que la personne qui peut répondre, pas qui. Mais moi, je pense que oui. Parce que quelqu'un, mais pas tout de suite, forcément. Parce que si vous voulez, si vous dites au Christ, attends, je te pose une question sur ce point-là, réponds tout de suite là-dessus.
Mais non, je
ne sais pas. Non, c'est un truc général, c'est une démarche que...
Mais si on a généralement une certitude à la fin, ça nous pousse à continuer. Donc,
oui, voilà, oui. Oui, mais l'attitude sur quoi?
Comment?
La certitude sur quoi?
Qu'on va trouver la fin à la fin de la...
Oui, mais attendez, je pense que il y a un ordre dans la foi, c'est-à-dire que je crois que à l'intérieur de la foi, si vous voulez, quand on croit toutes les vérités qui sont enseignées par l'Église. Mais dans ces vérités, certaines commandent d'une certaine façon les autres. L'existence de Dieu, qui est déjà, on peut atteindre par la raison, mais bon, le caractère trinitaire de Dieu, la divinité du Christ, et puis le fait qu'il a fondé une Église. Et je pense que quand on veut avancer, quand on veut arriver vers la foi, il faut, ce que dit saint Augustin, tu marches dans la lumière que tu as, vers la lumière que tu désires. C'est-à-dire qu'il y a un certain ordre, si vous voulez. Il faut essayer de s'attaquer aux problèmes les uns après les autres. Et on n'aura pas la réponse, peut-être tout de suite, mais moi je crois qu'il y a certains problèmes, certaines réponses qui peuvent conditionner d'autres. Et les réponses qu'on a, c'est quelquefois plutôt des certitudes intérieures, ou si vous voulez, un certain sentiment intérieur de conviction, mais qui ne se traduit pas forcément par quelque chose qu'on peut expliquer, quoi. Parce que, là, si vous voulez, la foi, c'est très paradoxal, c'est à la fois une démarche personnelle, et en même temps, ça se traduit par des propositions raisonnables. C'est-à-dire quelque chose de l'intelligence. Mais le rapport entre moi et ces propositions, ben justement, il est personnel. Donc certains y arrivent par une façon, et d'autres y arrivent par une autre. Mais moi, je pense, comme la foi est nécessaire au salut, que si quelqu'un la désire et, et prie Dieu pour l'avoir, ben il l'obtiendra au moins avant de mourir. Donc si vous avez encore 70 ans à vivre, vous voyez, ça laisse une marge. Non, c'est pas quand, vous voyez. Le problème, je crois qu'il ne faut pas mettre des ultimatums à Dieu.
Il y a des gens qui... C'est comme si ils attrapent
comme ça. Oui, vous êtes jalouse un peu, alors.
Oui.
Ben, c'est une bonne jalouse. Oui, mais non, mais laissez-les tomber, parce qu'il ne faut jamais... Quand on cherche la forme, moi, ça m'est arrivé. Moi, les cathos, ils m'énervent, franchement. Surtout ceux qui allaient à la messe. Les couvéniers, les bandits, les bénitiers, ces mecs-là, les curés. Bon, les curés, non, ça allait, mais... Ils m'énervaient. Mais justement, si vous obnubilez sur les mecs qui vous énervent, qui vous jalousez, et vous avez votre chemin à vous. Il faut que vous lisiez ce qui vous intéresse, que vous parlez avec les types qui vous semblent le plus correspondre à vos angoisses, à vos questions, et que vous suivez votre chemin à vous. Mais chacun a son chemin. Moi, je dis souvent pour des cathos qui viennent de familles cathos et qui en ont marre de leurs parents pratiquants et tout. Je dis, mais arrête de penser à tes parents, quoi. Et puis, fais ton chemin, quoi. Parce que chacun a sa voie à lui, hein, c'est pas... Et oui, mais alors qu'est-ce que... ça fait rien. S'il y en a qui la trouvent très vite et d'autres qui mettent 20 ans à la trouver.
Pourquoi?
Ben pourquoi? Parce que vous n'êtes pas Dieu. Si vous étiez Dieu, vous donneriez la foi à tout le monde d'un seul coup. Ben non, parce que, vous voyez, mais si vous voulez, le chemin que la personne parcourt, c'est Dieu qui le connaît, si vous voulez. Et il sait que s'il lui donne la réponse qui ne convient pas, qu'il lui donne la réponse, qu'en fait, il ne la désire pas encore suffisamment. En général, on l'obtient au moment où on la désire suffisamment. Et souvent, ça passe par la souffrance. Très souvent, les conversions... Il y a une phase de souffrance, c'est du fait de se rendre compte que, ben, en dehors de Dieu, les choses sont quand même assez instables et assez décevantes. Et donc, chacun a une souffrance qui va peut-être l'ouvrir à la vérité de la foi. Donc, il ne faut pas être jaloux, quoi. Ça ne fait rien. Il y en a qui sont nés dans des soutanes, il y en a qui sont... j'étais dans la communauté où j'étais, il y en a qui m'énervait. Je disais, écoutez-moi la paix, vous êtes nés dans une soutane, quoi. Puis il est rentré à 16 ans au monastère, alors, oui, le gars. Son père était déjà là, son père était veuf, il est rentré au monastère. Bon, je dis, vous êtes nés dans une soutane, c'est pas possible, il m'énervait, il était pieux, tout ça. Bon. Ouais. Mais, non, mais, il y a des gars qui sont des brillants, quoi, qui disent, Dieu les convertit, boum, et puis hop, il leur donne la vocation et c'est marre. Et alors qu'ils étaient peut-être n'importe quoi, et nihilistes, ou je sais pas quoi avant. Mais tant mieux, comme ça c'est marrant, l'église c'est pas tout pareil, quoi. Vous voyez? Parce que souvent les cathos, ils ont trop un modèle uniforme de... Vous voyez, souvent le type qui est converti, il apporte aussi un souffle nouveau, parce qu'il dit, mais écoutez, vous les chrétiens, vous avez plein de trucs, et vous vous rendez pas compte de la valeur de ce que vous avez. Donc c'est aussi une richesse, mais il faut avoir... il faut avoir expérimenté le manque, quoi. Donc voilà. Mais je crois que oui, je crois que la réponse est positive. Mais seulement on peut pas donner de date, hein.
Et là, j'ai une question par rapport à ce que vous disiez, en disant que pour aimer vraiment, il fallait avoir été déçu. Mais ça voudrait dire qu'il faut être déçu par Dieu, ce qui n'est pas possible pour l'aimer vraiment.
Ah, ou est-ce que pour aimer vraiment, il faut être déçu, ça concernait l'amour humain.
Ouais.
Mais c'est vrai dans l'amour spirituel aussi, bon, c'est la deuxième partie de la feuille qu'on a fait qu'on voit. Pour exercer le non-intelligent, il y a les purifications. Parce qu'en fait, la foi n'est pas sensible. Donc, le fait d'être dans un truc qui n'est pas sensible, on passe par les purifications que Jean de la Croix appelle. Purification des sens, du sentiment, on n'a plus de sentiment, on n'a plus de goût religieux. Et ensuite, purification intellectuelle, on est même un peu comme dans un vide, si vous voulez. Les gens croient que souvent les moines, ils ont plein d'idées et tout, alors quelquefois ils sont complètement dans le vide et ils se demandent presque même s'ils ont la foi. Parce que Dieu est au-delà des idées elles-mêmes. Les idées nous conduisent vers Dieu, mais Dieu est au-delà. Donc vous avez la déception. Au début, salut Saint-Sacrement, ça vous booste à mort et tout, puis après ça vous dit plus rien. Vous voyez ? Il y aura des choses comme ça. Des purifications, donc Dieu vous déçoit, en fait il vous déçoit peut-être pas comme une personne humaine, mais il répond pas, voilà, vous lui dites Dieu donnez-moi la force, tout ça, et vous n'avez pas l'impression qu'il vous la donne. Alors en fait il vous donne ce qu'il vous faut, mais vous ne le sentez pas. Parce que la foi n'est pas sensible, hein. C'est très très important. La foi est quelque chose qui est dans l'intelligence, qui est mystérieux, et ça c'est à l'abri du démon, parce que le démon ne sait pas si vous l'avez ou pas, enfin le démon est gêné par la foi, par tout ce qui est surnaturel. Donc c'est vrai que pour aimer Dieu à un certain degré, il faut l'avoir aimé dans la sécheresse, quoi. C'est-à-dire que parfois, bon, pas un prédicateur. Quand vous prêchez, il y a certaines consolations, quoi. Vous dites, tiens, ça intéresse les gens, etc. Mais c'est vrai que vous passez aussi par... Quand vous préparez une prédication, Moi, c'est rare que je passe pas par un moment en me disant, mais qu'est-ce que je vais fiche là-bas? Aujourd'hui, je me disais, mais qu'est-ce que... J'ai vraiment pas envie de venir. Hein. Et ils vont tous être crevés, voir faire le pélé, c'est la fin de l'année, il y en aura moins. Et puis, ils savent déjà ce que je vais leur dire. Enfin, et j'ai à chaque fois, je crois que c'est le démon qui me raconte plein de trucs comme ça. Et puis, depuis environ 5 jours, peut-être des antibiotiques aussi qui font... qui aident un peu, parce que j'en prends, mais si vous avez une purification, c'est rare. J'étais content de voir ça parce que j'ai entendu une émission sur je sais pas quoi, et il paraît que Brassens, c'est pas un père de l'église évidemment, quand il faisait une chanson, Brassens et Brel, il disait, quand on a fait la chanson, on se dit c'est fini, je pourrais plus jamais faire une chanson, parce que c'est trop dur. Et ben moi ça m'arrive, ça, des trucs comme ça m'arrivent, enfin, je pense aussi à d'autres prédicateurs. Dites bon, le prochain truc, ben non, je peux pas le faire quoi. Parce que bon, ça n'intéresse pas assez. Vous avez vraiment l'impression que tout, vous avez l'impression d'être complètement creux, si vous êtes sur un immense mer de néant. Et vous avez la foi, vous accrochez à la foi, et vous dites, ben non, voilà, vous priez en disant, ben non, c'est une purification, quoi. Mais c'est vrai que vous travaillez parfois, par exemple pour l'Église, je pense que l'amour de l'Église passe aussi par la déception vis-à-vis des hommes d'Église. Vous voyez, parce qu'au début, on peut se faire quelquefois des illusions, mais l'Église est composée d'hommes pécheurs, ben on aime l'Église malgré le caractère pécheur des hommes. Et je crois que pour Dieu, c'est pareil. Hein. Tant qu'on a des consolations, si vous voulez, tant qu'on n'a pas de problème, mais quand on a des souffrances intérieures, si vous voulez, des déceptions, parce que justement, on dit Dieu devrait envoyer ça, Dieu devrait... Mais Dieu fait autrement, mais c'est en général beaucoup mieux fait que ce qu'on aurait fait nous. Parce qu'il est au-delà, si vous voulez. En même temps que Dieu nous éprouve sensiblement, il envoie dans notre âme une grâce qui nous permet de porter cette purification. Et en général, à ce moment-là, les gens arrêtent. Moi, je vais donner ma petite expérience de prêtre, hein, j'ai bientôt 30 ans de sacerdoce. Il y a beaucoup de catholiques. Hein, on dit que les chrétiens sont des progressants, hein, sont soit des commençants qui viennent de se convertir, soit des progressants, soit des parfaits. Hein, pas des masses, enfin, alors, c'est les degrés classiques. Hein. Et le père Garrigou Lagrange, il y a beaucoup de gens qui ne sont ni des commençants, ni des progressants, ni des parfaits, qui sont des attardés. Il y a des gens qui ont commencé, ils ont fait 5, 10 ans, 15 ans de vie chrétienne sérieuse, et puis après, comme Dieu les a éprouvés intérieurement, ils avaient une prière desséchée, ils ont eu parfois des épreuves dans la santé, des épreuves d'eux, ils ont eu des problèmes dans l'affection, affectif ou autre, ils ont eu des déceptions avec les hommes d'église, et ils avaient pu les consolations de leur noviciat, si vous voulez. Et bien à ce moment-là, ils reculent. Et alors donc, ils en restent, si vous voulez, c'est ce que dit saint Jean de la Croix, ils n'en finissent pas de sevrer le sens, et ils en restent, bon, ils perdent pas forcément la foi, mais ils en restent à un stade finalement assez élémentaire, assez grossier, parce que ils ne veulent pas rentrer dans l'idée que la souffrance purificatrice de Dieu nous est bonne pour aller plus loin, et en fait est une béatitude. L'idée fondamentale, si vous voulez, c'est qu'en christianisme, le bonheur, si vous voulez, n'est pas exclusif, le bonheur et la joie, sont deux éléments tout à fait essentiels, ne sont pas exclusifs de la souffrance. Pour ça, on n'arrive pas à se mettre dans la tête, ce qui est normal. On n'arrive pas. Et donc, si vous voulez, quand une souffrance nous arrive, on se dit, ah ben, peut-être je me suis trompé, ou bien on est moins motivé pour continuer. Alors qu'en fait, les saints, si vous voulez, on voit où les chrétiens fervents souffrent, mais rayonnent dans leur souffrance, parce qu'ils ils sont heureux, quoi. Et donc, ils ne font pas reculer quand on commence, si vous voulez, quand on commence dans la prière, dans la sécheresse, on va faire oraison. On conseille, il y a des groupes d'oraison qui sont très bien, et on dit, faites oraison, mettez-vous devant le Saint-Sacrement un quart d'heure par jour. Et bien, beaucoup de gens ne persévèrent pas parce qu'ils disent, je sens rien. Ben, moi, je peux vous faire une confidence, moi non plus. Ça fait 33 ans que je suis dans le Saint-Sacrement, et très souvent, je sens rien du tout. Sauf que j'ai des tas de problèmes qui viennent dans ma tête, la construction de l'église, la prédication à faire, etc. Donc j'écarte, mais tu vois, je sens rien, de chez rien. Mais c'est ça, et j'ai pendant un quart d'heure, je suis avec Dieu, enfin une demi-heure. Et c'est bon. Parce que le temps que je suis là, c'est du temps pour Dieu. Mais combien de gens, si vous les faites ça, Saint-Thérèse d'Avila dit, je promets le ciel à ceux qui font un quart d'heure d'oraison par jour. Allez, tous les jours, un quart d'heure devant le Saint-Sacrement, vous verrez, votre vie sera différente. Alors prenez un bouquin, hein, prenez un truc au début pour vous aider un peu, faites une école d'oraison, etc. D'accord. Mais faites ça, et persévérez pendant 6 mois, et vous verrez, vous ne serez plus le même. Et bien, beaucoup de chrétiens ne le font pas. Ah, parce qu'il y a des trucs, il y a des heures supplémentaires, il y a plein de trucs. On n'a pas le temps. Mais si on le prend, ça vaut la peine. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on le prenne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Je voulais juste vous expliquer une question que vous avez entendue. La foi est nécessaire pour le salut.
Oui, la foi est nécessaire pour le salut. C'est-à-dire, Saint Paul dit dans C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, enfin, qui est un disciple de saint Paul, dit « Pour celui qui approche de Dieu, il est nécessaire qu'il croie que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qu'il cherche. » C'est-à-dire qu'il faut croire, pour quelqu'un, pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il croie que Dieu existe et que Dieu s'occupe des hommes. Que Dieu donc donne le salut à ceux qui le désirent. Eh bien, comme la foi est nécessaire, comme c'est explicitement révélé par saint Paul, alors, comme ceci est nécessaire, c'est même logique d'ailleurs, parce que Dieu peut sauver les gens qui désirent être sauvés, donc comme Dieu veut que tout homme soit sauvé, eh bien il va donner à tout homme la grâce de faire le pas qui l'amènerait à la foi s'il continue à faire les pas suivants. Parce que logiquement il doit faire ça. Mais quelqu'un qui commence à chercher, Dieu va lui permettre de faire un pas. Alors, vous êtes venu au café caté demain, je ne sais pas ce que vous allez faire, la fête du réserve, vous allez faire un autre pas, ou un goût, ou je ne sais pas quoi, vous allez faire un deuxième pas. Et c'est pas, les pas finissent par mener à la foi, puisque la foi est nécessaire au salut et Dieu veut le salut des hommes. Et elle est nécessaire au salut, parce que si vous voulez, le salut, c'est précisément que Dieu nous prenne. Donc il faut que Dieu existe, quoi. Il faut que Dieu s'occupe de nous.
Mais pour les gens qui pratiquent une vie naturellement sainte,
oui. Sans croire. Ben, attendez, les gens qui pratiquent une vie naturellement sainte sans croire, alors il faut distinguer, d'abord il faut connaître leur vie, est-ce que... Dans leur vie, il n'y a pas des fautes contre la loi naturelle. C'est très difficile, sans la grâce, d'observer toute la loi naturelle. C'est même impossible. Donc, on ne connaît peut-être pas tout, mais enfin, moi, comme prêtre, j'en connais un peu plus. C'est beaucoup plus difficile. Alors, ce sont peut-être des gens qui appartiennent à l'Église invisiblement, parce que par une faute qui n'est pas imputable de leur part, qui n'est pas coupable de leur côté, ils n'ont pas arrivé à découvrir la crédibilité du christianisme. Donc, ils sont quand même dans l'amitié de Dieu. Il peut y en avoir dans l'islam, dans le bouddhisme, etc. Et en fait, ils aiment le Christ sans le connaître. Mais c'est très mystérieux, mais c'est comme ça, parce qu'aucun homme ne peut être sauvé en dehors du Christ. Mais évidemment, c'est beaucoup plus aléatoire. Parce qu'on ne peut pas en être sûr. Nous, les chrétiens, on sait qu'on croit au Christ de l'Évangile. Donc il y a un critère objectif. C'est que celui qui est en dehors, moi je prie pour, si vous voulez, pour qu'il y ait le maximum de gens comme ça. Mais il faut surtout leur annoncer l'Évangile, parce que c'est le Christ lui-même a dit d'annoncer l'Évangile à tous, même aux musulmans. Parce qu'ils ont besoin du Christ pour être sauvés. Et s'ils sont sauvés sans être devenus chrétiens, c'est parce qu'en fait, ils étaient chrétiens sans le savoir. Mais nous, on ne peut pas le savoir si facilement que ça de l'extérieur. C'est pas si évident que ça. Et alors, il faut faire attention aussi il faut se rendre compte qu'en fait, ce qui sauve, c'est pas l'ordre naturel, c'est pas la raison. Ça serait du naturalisme. Ce qui sauve, c'est l'amour surnaturel. Donc si ces gens-là observent la loi naturelle, dans la mesure où ils la connaissent, et ont dans leur cœur le désir d'obéir à la révélation de Dieu, si Dieu se révèle, adhéreront à cette révélation, parce qu'ils aiment Dieu, quel que soit son mystère, alors ils sont sauvés. Oui. Mais il y a quelque chose de toujours surnaturel dans le salut. Moi, j'ai eu l'exemple d'un prêtre qui me racontait qu'il avait assisté un musulman en Afrique, à son lit de mort, ben, il n'avait que quelques minutes, c'était un type qui vraiment était très pratiquant, honnête et tout, il s'appelait Mamadou, c'est encore du nom, et alors évidemment il n'avait pas le temps de lui proposer explicitement tout le christianisme. Alors il lui a posé des questions, il lui a fait faire le baptême de désir, ça s'appelle le baptême de désir. Il lui a dit, bon, est-ce que bon, Mamadou, bien sûr, croit en Dieu, bah, oui, Mamadou aime Dieu, oui. Et si Dieu révélait quelque chose à Mamadou, est-ce que tu obéirais? Si Dieu te révélait quelque chose, est-ce que tu ferais tout ce que Dieu te dit, te révèle? Il dit oui. Et c'était une très belle question. Et donc, si ce gars-là était dans l'amour de Dieu, ben, il est sauvé, quoi. Parce qu'en fait, il aurait accepté la révélation du Christ s'il l'avait connu de façon humainement suffisamment crédible, parce que pour lui, il connaissait mal l'Église, ou il ne la connaissait pas par des calomnies, par des choses dont il n'était pas lui coupable. Mais il faut avoir fait un travail pour s'éclairer. Hein. Parce que beaucoup de gens ne font pas ce travail-là. C'est ce que je vous dis, c'est qu'il faut à la fois maintenir qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église, et qu'il y a des gens qui appartiennent invisiblement à l'Église. Donc les deux sont extrêmement importants. Et il ne faut pas oublier ni l'un ni l'autre. C'est qu'il faut prêcher le Christ pour que les gens aient envie de venir à l'Église, et il faut dire, ben, on ne juge personne, parce qu'on ne sait pas à quel degré d'ignorance et de quel chemin il se trouvait. Donc la foi est nécessaire au salut, mais ça peut être une foi implicite et obscure.
Oui. Donc ben, au nom de vous tous, je remercie le Père de Bignard d'être venu durant toute cette année, nous faire ce cycle de conférences. Bien sûr, on lui donne rendez-vous avec plaisir l'année prochaine. Nous allons faire passer parmi vous un petit tronc pour participer, bien sûr, auprès de ces conférences. Pour ceux qui sont impatients de retrouver le Père de Vinières, il y a cet été le rassemblement des jeunes catholiques, dont vous trouverez des tracts à la sortie. Donc juste peut-être deux petits mots.
Oui, j'en ai parlé déjà. C'est notre petite université d'été. Donc on a 4 jours avec 5 jours et demi, avec la liturgie et puis beaucoup d'enseignements. Vous avez les thèmes qui sont développés là. Il y a à la fois une vie fraternelle, une détente, une vie liturgique et beaucoup d'enseignements. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et faites venir des gens qui veulent découvrir ou approfondir leur catholicisme. Enfin, c'est un apostolat très, très motivant.
Et je vous rappelle aussi un autre apostolat qui est l'apostolat de la rue d'Aguerre, donc aussi sous le patronage de Saint-Dominique, puisque c'est la paroisse Saint-Dominique qui nous accueille dans le 14e. Et c'est samedi prochain à partir de 13h, ça commence par une messe dans l'église, et après il y a un déjeuner et l'évangélisation de 15h à 18h rue d'Aguerre. Voilà. Bon été à tous, bonnes vacances pour ceux qui remontent, et à l'année prochaine.
Qu'est-ce que vous mettez comme truc?
Peut-être il est possible de récupérer un verre.